Et le journal est présenté par Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Des renforts envoyés dans le sud de l'Italie pour tenter de retrouver Simon Gauthier, ce jeune randonneur disparu depuis une semaine. Principale difficulté pour les secours, sa localisation. Nous ferons le point dans un instant dans son journal. Pour la première fois dans un match de foot, la partie a été interrompue pour cause de chants homophobes dans les tribunes. Cela s'est passé hier soir à Nancy. Explications et réactions ce journal. En Ligue 1, Marseille joue à Nantes cet après-midi pour la suite de la deuxième journée du championnat. Où en est-on, Loïc Folio ?
32 minutes de jeu, 0-0 entre le FC Nantes et l'OM qui vient de rater un pénalty.
Merci Loïc, on vous retrouve dans le journal des sports de Marie-Ida à la fin de cette édition. Dans ce journal également, le retour du loup dans le Jura et la disparition d'une icône de la contre-culture américaine des années 60. Peter Fonda est mort à l'âge de 79 ans.
Europe 1.
Plus les heures passent et plus l'inquiétude grandit chez les proches de Simon Gauthier.
Oui, effectivement, toujours aucun signe de vie de ce jeune randonneur français perdu dans le sud de l'Italie depuis maintenant une semaine. Il avait envoyé, on le sait, un message au service de secours indiquant qu'il était tombé d'une falaise non loin de la côte et qu'il avait les deux jambes cassées. Des renforts doivent être dépêchés sur la zone pour les recherches. Le problème, Victor Delande, c'est qu'on ne parvient pas à localiser précisément l'endroit où Simon est tombé.
Oui, pour essayer d'être le plus concret possible, Lionel, les secours italiens cherchent actuellement ce randonneur français de 27 ans sur une zone de 20 km². Une mission quasi impossible compte tenu du relief de la région. Simon Gauthier est parti de Policastro, un village à 200 km au sud de Naples. Il longeait des falaises, des apics. La zone est donc extrêmement difficile d'accès. Mais ce qui pourrait aider les secours, ce sont les coordonnées GPS du téléphone portable de Simon Gauthier. Et c'est là où ça bloque. Google est en mesure de les fournir. Mais la société américaine doit d'abord avoir une autorisation écrite des autorités italiennes. Et d'après un ami de Simon Gauthier que j'ai pu joindre en Italie, cette demande prend beaucoup de temps.
Les autorités italiennes n'auraient fait cette demande que très tardivement. Et donc aujourd'hui, on est toujours sans possession de ces données géolocalisées d'une dernière position où se trouvait Simon.
Par ailleurs, selon nos informations, les secouristes viennent juste d'obtenir une indication capitale. Un couple d'Italiens aurait aperçu Simon Gauthier jeudi 8 août en fin de journée sur une plage. Il était en train de dessiner, ce qui correspond parfaitement au personnage selon ses amis. Cette information va donc permettre aux équipes de secours italiens de resserrer la zone de recherche.
Merci Victor Delande. On a compté jusqu'à 745 km de bouchons cumulés sur les grands axes à la mi-journée pour le chassé-croisé des vacanciers. Principale difficulté entre Lyon-Sud et Orange où il fallait 3 heures pour faire le parcours contre 1h30 en temps normal. Demain dimanche, la journée sera classée rouge dans le sens des retours. Chez Transavia, comme prévu, la direction affirme que 95% des vols ont été assurés aujourd'hui. Ce devrait être le cas également demain dimanche.
C'est une première dans le foot français. Un arbitre qui décide d'interrompre un match à cause de chants et d'insultes homophobes qui résonnent dans les tribunes.
Ouais, cela s'est passé hier soir à Nancy pour la rencontre Nancy-Le Mans. Mehdi Mokhtari, l'homme en noir, a donc stoppé le match pour signaler l'incident au délégué de la Ligue. Il a en fait appliqué un règlement de l'UEFA qui prévoit des sanctions contre toute manifestation portant atteinte à la dignité de la personne. Décision arbitrale saluée par Johan Lemaire, fondateur de l'association Foot Ensemble. Il espère aussi que cela fera évoluer les mentalités dans les stades.
Moi, ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là, de dire qu'un arbitre prenne ses responsabilités, de dire stop maintenant, stop, on arrête, c'est pas bien de dire ça, c'est honteux, c'est comme les cris de singe, c'est comme l'antisémitisme, c'est comme le sexisme. Donc voilà, l'arbitre était courageux, c'est bien ce qu'il a fait, et ça permet d'ouvrir le débat, de se dire, ben voilà, pourquoi il y a des chants homophobes dans les stades depuis toujours, pourquoi ils trouvent que ce n'est que du folklore. Ça le mérite d'être posé comme question. Je pense que les supporters doivent prendre le problème eux-mêmes et imaginer un instant que ça pourrait être leur petit frère, leur sœur, leur fils qui est homosexuel et qui vit mal ces chants-là. Dire qu'il y a de l'homophobie, c'est une chose, mais maintenant activer et essayer de faire boucher les lignes, c'en est une autre. Et moi, j'espère que les supporters vont faire avancer le débat.
Johan Lemaire de l'association Foot Ensemble, des propos recueillis par Gian Bergawi dès hier soir, hein, notons-le. Roxana Maressiné-Anou, la ministre des Sports, a félicité l'arbitre de cette rencontre Nancy-Le Mans.
Oui, la ministre qui sera d'ailleurs mon invitée tout à l'heure à 19h15 en direct dans votre grand journal du soir.
Une grande conférence internationale s'ouvre aujourd'hui à Genève sur la question des espèces animales menacées de disparition. Une conférence qui doit se pencher notamment sur le renforcement des règles du commerce qui menace ces animaux sauvages, les rhinocéros ou encore les éléphants dont
La population a chuté de façon dramatique ces dernières années. Il ne reste plus que 400 000 éléphants sur le continent africain.
Lionel, à présent, le loup, lui, est bien de retour dans le massif du Jura.
Oui, les scientifiques ont à nouveau repéré sa présence dans le Doubs. Il a été photographié grâce à un dispositif d'observation. Il est repéré dans une zone montagneuse, mais aussi habitée. Et pour Delphine Chesneau, en charge de la région Franche-Comté pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, eh bien, rassurons-nous, il ne représente pas un danger pour l'homme.
Pour Monsieur Lambda, il n'y a pas de consigne particulière. Il faut plus avoir peur, en fait, du chien de votre voisin que d'un loup. Si on a la chance de rencontrer un loup, moi, je conseille aux gens de l'observer. C'est une chance inouïe. C'est un animal extrêmement rare, extrêmement furtif, qui est plutôt nocturne. Donc, les observations que l'on a de particulier, c'est plutôt le matin tôt ou le soir tard. Le cliché du loup sanguinaire, c'est simplement les histoires, en fait, que l'on avait quand on était enfant. C'est les mythes, c'est la mythologie. C'est un animal qui craint énormément l'homme. Quand il vous a senti, en général, il est déjà parti, vous le voyez pas. On peut pas dire qu'il n'y ait pas de risque, mais simplement depuis le retour du loup en France en 1992, il n'y a jamais eu aucun témoignage comme quoi il y aurait eu de l'agressivité ou de l'attaque d'un loup sur un être humain.
Des propos recueillis par Johanna Chabas. Un jeune homme d'une vingtaine d'années écroué à Perpignan, il est suspecté d'avoir allumé 12 incendies dans les Pyrénées-Orientales depuis le mois de mai dernier. Le dernier en date avait détruit 20 hectares de végétation et provoqué de gros dégâts matériels. À Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, le serveur d'un restaurant a été tué par balle hier soir par l'un des clients de l'établissement. Selon les témoignages sur place, l'homme aurait ouvert le feu suite à une dispute parce qu'il estimait ne pas avoir été servi assez rapidement.
Europe 1, 18h07, ne bougez pas, votre grand journal du soir revient dans un court instant. À tout de suite. Le journal sur Europe 1, la suite, Lionel Gougelot, Thierry Dagirel.
À l'étranger avec cette nouvelle manifestation des pro-démocraties dans les rues de Hong Kong, Lionel.
Plusieurs milliers d'opposants qui se sont dispersés en fin de journée après une intervention musclée de la police. Des manifestants qui appellent à une autre mobilisation de masse demain dimanche. L'Union européenne appelle au rétablissement du dialogue pour désamorcer la situation. À New York, les avocats de Jeffrey Epstein restent sceptiques quant aux conclusions du médecin légiste qui indiquait hier que le financier américain s'était bien suicidé par pendaison. Ils annoncent vouloir mener maintenant leur propre enquête indépendante.
Il était la star du film Easy Rider. Peter Fonda, frère de Jeanne et fils d'Henri, est décédé à l'âge de 79 ans.
Une véritable icône de la contre-culture américaine, héros d'un road movie qui a marqué des générations avec notamment... ce tube de Steppenwolf. Born to be wild. Born to be wild. Peter Fonda donc qui tire sa révérence. On retrouve aux États-Unis notre correspondant Benoît Clerc.
Je suis très triste, c'était mon gentil petit frère adoré, le bavard de la famille, et j'ai passé des moments merveilleux seul avec lui ces derniers jours. Il est parti en riant. C'est ainsi que Jane Fonda a annoncé aux médias américains cette nuit la disparition de Peter Fonda. Acteur sur les traces de son père Henry, scénariste puis producteur, il aura tourné plus d'une soixantaine de films, mais le seul auquel tout le monde pense, c'est Easy Rider, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière d'Hollywood en devenant l'emblème d'un des étés les plus chauds de l'histoire américaine, avec le festival de Woodstock, les exactions de Charles Manson ou encore Le premier homme sur la lune. Relecture sur deux roues de Sur la route, le roman de Jack Kerouac, Easy Rider était aussi une rumination sur les mythes de l'Amérique de l'Ouest et de ses pionniers. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est que le film avait pris naissance en France, à Roscoff, où Peter était venu sur un tournage de sa sœur Jane qui vivait alors avec Vadim. Et c'est là qu'il rencontre Terry Southern, le scénariste de Barbarella et du Docteur Folamour, qui sera avec Dennis Hopper le troisième larron de l'histoire. Le 20 septembre prochain, à New York, sera célébré le 50e anniversaire du film avec un orchestre qui reprendra la bande originale. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Steppenwolf, donc Born to be Wild.
Direction la Côte Basque à présent, Lionel, où se déroulent ce week-end les dernières épreuves du Lacano Pro.
Oui, c'est un rendez-vous mondial des géants du surf, attraction touristique également. Une compétition que les organisateurs ont décidé de placer sous le signe de la préservation de l'environnement. Reportage de Claudia Bertram.
Surfer écolo, c'est le leitmotiv du Lac Hano Pro cette année. La compétition de surf a mis en place toute une série de petites mesures éco-responsables pour sensibiliser le public et les surfeurs. Alix Cranet de Farge est responsable événement.
Tout premièrement, c'est donc le tri des déchets, tous les déchets de tout l'événement. Ensuite, on a installé 6 bornes éco-mégots dans le village des partenaires qui recyclent les mégots, donc plus de mégots par terre. On diminue le plastique. Tous les surfeurs ont eu des gourdes à leur accréditation et donc on a installé des fontaines à eau pour qu'ils se servent.
Et ces initiatives sont saluées par les compétiteurs comme Théo Julite, surfeur breton d'une vingtaine d'années.
C'est super important, moi j'ai pas envie d'aller surfer sur une plage où il y a des mégots de cigarettes partout, qu'il y ait des bouteilles d'eau qui flottent dans l'eau. Non, c'est important, ouais. Je pense qu'il faut qu'on se réveille parce qu'il y a un moment, quand on pourra plus surfer, on sera pas très content et c'est maintenant qu'il faut agir.
Dans le village des partenaires de la compétition, Jules, 20 ans, boit un verre avec ses amis dans une éco-cup, comprenez, un gobelet en plastique réutilisable. Et lui aussi apprécie ce tournant écolo. Et
c'est très très bien que ça se fasse ici. On a l'habitude dans les événements d'avoir par exemple des éco-cups, des trucs comme ça. C'est mieux que d'avoir des gobelets en plastique. Les couverts ont été remplacés par des couverts en bambou, donc je ne vois que des bonnes initiatives.
Une première édition éco-responsable réussie donc pour les organisateurs qui comptent bien poursuivre cette démarche l'année prochaine. Lac Hano, Claudia Bertram, Europe 1.
C'est parfait, Lionel, vous surfez un peu, vous dans le Nord, pas facile.
Très, très peu, oui, très, très peu.
Merci beaucoup, c'était le journal présenté par Lionel Gougelot. Dans un instant, les sports, mais tout de suite la météo. Valérie Darmon, il a beaucoup plu sur le Nord aujourd'hui et demain, ça ne s'arrange pas.
Et oui, au cours de la nuit prochaine, une nouvelle vague de pluie passagèrement marquée arrosera le nord de la Loire jusqu'à la frontière belge. Et dans la journée, cette perturbation va s'enfoncer sur le pays pour s'étendre du Poitou-Charentes et du centre au bassin parisien, à la Champagne, aux Ardennes, à la Lorraine, autour de la mi-journée à peu près. Et elle va donner des pluies irrégulières, mais s'accompagner de rafales de vent jusqu'à 60 km/h. À l'arrière, c'est-à-dire sur les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, un temps plus variable s'installe entre éclaircies, nuages et quelques averses côtières. Et à l'avant, du sud-ouest aux frontières allemandes, le ciel devient de plus en plus nuageux, de plus en plus chaotique et il donnera des orages en toute fin de journée, de Midi-Pyrénées à Auvergne, à Rhône-Alpes et jusqu'au Jura. Soyez prudents sous ces orages à cause du vent violent. Sur le Languedoc-Roussillon, la grisaille sera aussi plus tenace qu'aujourd'hui, donnant quelques ondées. Les minimales seront comprises entre 13 et 18 degrés en général, 18 à 21 sur le sud-est. Les maximales, 19 à 24 au nord de la Loire jusqu'à la Belgique, 25 à 31 ailleurs et 33 en Midi-Pyrénées ou encore du Lyonnais à la Provence.
Merci beaucoup Valérie. La météo des plages, ce sera à 18h30.
Le journal des sports.
Avec Marie Guida ce soir. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
On commence Marie avec le football et la deuxième journée de Ligue 1 cet après-midi.
Et un match en cours, les Marseillais qui se déplacent sur la pelouse de Nantes. On approche de la mi-temps et pour le moment, les deux équipes se maîtrisent, Loïc Folio.
Oui, absolument. 44 minutes de jeu ici à la Beaujoire. Toujours ce score de 0 à 0 avec des Marseillais qui affichent davantage de maîtrise technique, notamment sous l'impulsion de Dimitri Payet. Plutôt excellent sur les coups de pied arrêtés. Le fait marquant de cette première période, c'est quand même ce pénalty accordé pour une faute de main aux Marseillais. Faute de main d'Abdoulaye Touré, frappé par Benedetto dans les nuages au-dessus du cop de la tribune Loire, et ce qui explique pourquoi le score en est toujours de 0 à 0 ici entre le FC Nantes et l'OM après 44 minutes de jeu.
Merci Loïc Folio en direct de Nantes pour Europe 1. Hier, Lyon en pleine confiance a écrasé Angers 6 à 0. Ce soir, suite de la deuxième journée avec 5 matchs au programme à suivre dans le multiplex d'Europe 1 avec Lionel Rousseau à partir de 20h. Et un mot de Ligue 2, troisième journée, Lens s'est incliné à domicile cet après-midi contre le Havre. Et c'est Clermont qui est leader de Ligue 2 ce soir.
Et en Espagne ?
En Espagne, Marie, c'est le début de la deuxième mi-temps. Exactement. Le Real Madrid mène 1 à 0 sur la pelouse du Celta Vigo grâce à un but de Karim Benzema. Et hier, le Barça et Antoine Griezmann ont raté leur début en championnat. Défaite 1 à 0 contre l'Athletic Bilbao.
On parle de rugby maintenant. L'équipe de France qui démarre sa préparation pour le Mondial en septembre prochain au Japon.
À 5 semaines du début de la Coupe du Monde, le 15 de France défiera l'Écosse ce soir à Nice. L'occasion de se rassurer un peu après un tournoi destination compliqué. Le duo de Français Galtier et Brunel sont en stage depuis plusieurs jours dans le sud de la France. Ils sont impatients de commencer leur préparation, comme le confie le capitaine Jefferson Poirot.
Il y a eu beaucoup d'excitation là, dans la semaine. Il y a beaucoup d'excitation sur les derniers entraînements aussi. On sent que tout le monde est un peu électrique. Il y a des petites erreurs d'excès d'envie, mais honnêtement, je préfère ça. En général, c'est les périodes où ça sent bon. On a souffert ensemble pendant 8 semaines et aujourd'hui, on est impatient de pouvoir se retrouver sur du concret. On est impatient.
Jefferson Poirot au micro de Simon Rubin. France-Écosse, coup d'envoi 21h05, un match à suivre dans Europe 1 Sport ce soir.
C'est important pour hein, ce soir. Et l'équipe de France de basket, Marie, cette fois, continue sa préparation pour le mondial en Chine.
Oui, et de la meilleure des façons, la France s'est imposée hier soir 86-72 contre le Brésil. Et elle rejouera dès ce soir à 20h30 son dernier match de préparation en France face à l'Argentine. Avant de s'envoler pour la Chine, l'équipe de France disputera son premier match du mondial le 1er septembre prochain à Shenzhen contre l'Allemagne. Et un mot de tennis pour terminer au tournoi de Cincinnati. 8 mois après son opération d'une hernie, Richard Gasquet va rejouer pour la première fois depuis 6 ans une demi-finale de Master 1000. Il sera opposé en début de soirée au Belge David Goffin.
Le journal des sports était présenté par Marie Guida. Vous revenez après le journal de 19h. Marie, à tout à l'heure.
Europe 1.
Alors peut-être que vous êtes nombreux déjà sur la route des retours de vacances. C'est vrai qu'on mange plus sain pendant les vacances, plus vrai. Comment garder une alimentation saine? Comment se passer des aliments ultra transformés? Je vais poser la question au docteur Anthony Fardet. Il est chercheur en alimentation préventive. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 18h17, votre grand journal du soir continue avec vous, Thierry Dagiral. On a mangé sain pendant les vacances, des produits de nos régions notamment. Et cette question ce soir, comment se passer des produits transformés? Vous recevez Thierry, le docteur Anthony Fardet, il est chercheur en nutrition préventive et auteur du livre « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai » aux éditions Thierry Soucard.
Bonsoir Anthony Fardet.
Oui, bonsoir.
D'abord pour bien comprendre, c'est quoi un produit transformé?
Alors, il faut bien préciser ultra transformé. Hein, les ultra transformés, c'est une catégorie d'aliments transformés, parce que si vous voulez, on mange transformé depuis la domestication du feu, donc depuis qu'on cuit les aliments.
Ouais.
Donc, c'est vraiment ultra transformé. Hein, c'est une catégorie d'aliments industriels et pas tous. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ce sont des aliments qui symbolisent l'artificialisation de notre alimentation, notamment depuis les années 80, où on est passé en quelque sorte des vrais aux faux aliments. Alors, en quoi ces aliments sont-ils artificiels? Ils sont artificiels dans le sens où on a modifié, exacerbé donc les propriétés sensorielles de l'aliment. Alors je m'explique, c'est goût, couleur, arôme et texture.
D'accord.
Si vous voulez, c'est très... on modifie la texture par des texturants, les colorants, les arômes artificiels et les exhausteurs de goût.
Mmh.
Donc on a créé une matrice en fait alimentaire artificielle qui est hyper attractive et effectivement qui pousse à les consommer
et
en grande quantité.
Les chiffres sont là, je voyais 600 millions d'obèses dans le monde, 300 millions de diabétiques, 2 milliards de personnes en surpoids. Vous tirez la sonnette d'alarme, trop c'est trop, il faut que ça cesse.
Ah oui, bien sûr, il faut vraiment limiter ces aliments qui se répandent comme une traînée de poudre dans le monde entier, donc... Aujourd'hui, on a plus de 25 études réalisées chez l'homme, des études d'épidémiologie qui montrent qu'une consommation régulière de ces aliments, voire excessive, est associée à de nombreuses dérégulations métaboliques, à des maladies chroniques. Alors, on peut citer évidemment l'obésité et le diabète, mais aussi la fameuse stéatose hépatique dont on a parlé à la radio il y a 2-3 semaines,
oui.
C'est-à-dire le foie gras en fait. Hein. Donc, en France, il y aurait plus de 8 millions de personnes atteintes de foie gras. Donc, on appelle aussi la maladie du soda ou de la malbouffe.
Oui.
Vous avez aussi l'excès de cholestérol, ça a été associé aussi à un risque accru d'hypertension. Et puis les maladies chroniques, bah, c'est des études qu'on fait un peu la une des journaux, avec risque accru de cancer toto et du sein, maladies cardiovasculaires, symptômes de l'intestin irritable, symptômes dépressifs et risque accru de mortalité. Donc. Mais je précise bien, c'est quand on est dans une consommation régulière et excessive, si vous en consommez un ou deux par jour...
Ouais.
Il n'y a aucun risque pour la santé, en fait.
Anthony Fardet, l'ultra-transformation, ça commence dès le petit-déj avec notamment ces fameuses barres chocolatées, ces céréales qu'on peut donner à nos mômes?
Oui. La plupart des céréales petit-déjeuner pour enfants sont ultra-transformées à 95-99%. Donc, ils contiennent de nombreux ingrédients et additifs qu'on qualifie de cosmétiques. Hein, donc, ça porte bien son nom. C'est-à-dire, on est vraiment là pour modifier la matrice des aliments, la structure des aliments de manière artificielle. Les barres chocolatées aussi sont pour la plupart des aliments ultra transformés. On ne trouve pas d'élevage de barres chocolatées dans la nature. Hein, donc on est bien en face d'un aliment créé de toutes pièces par l'homme. C'est-à-dire, si vous voulez, on déstructure des aliments d'origine, le pois, le soja, le blé, le maïs, etc., le lait, les œufs. On en extrait des ingrédients par cracking.
Oui.
Et ensuite, on recombine ces ingrédients entre eux dans des matrices artificielles qu'on appelle justement les aliments ultra transformés. Donc on est bien, si vous voulez, face à une transition nutritionnelle qui a été ignorée longtemps, même par les nutritionnistes, et qui date des années 80, c'est-à-dire le passage des vrais aux faux aliments ou des vrais aux fake foods.
Aidez-nous à ouvrir l'œil. Comment on arrive à détecter ces produits ultra transformés? Il faut précisément regarder les emballages?
Oui, alors... En fait, le premier réflexe, c'est de regarder la liste des ingrédients. Ouais. Donc, on a coutume de dire, parce qu'on a fait des calculs statistiques, hein, c'est une moyenne, qu'au-delà de 5 ingrédients, la probabilité d'avoir un aliment ultra transformé est très élevée.
D'accord.
Si vous voyez des noms que vous n'utilisez pas en cuisine, genre sucre inverti, sirop de glucose,
ça, c'est pas bon.
Polydextrine, isolat de protéines, protéines hydrolysées, gluten, huile transestérifiée, etc., même si en France, on en utilise un peu moins, tout ça, ce sont des marqueurs d'ultra-transformation, oui. Ainsi que les arômes. Il faut savoir qu'en France, on utilise plus de 2800 arômes artificiels. Donc ça c'est le premier réflexe. Ensuite, il y a des tendances lourdes qui ne sont pas spécifiques à 100% aux aliments ultra-transformés, mais qui leur sont très caractéristiques. Vous avez des emballages très colorés, souvent des promotions, des sur-emballages, des personnages de l'univers des enfants, justement, ouais. pour attirer les enfants. Et puis, donc, ce sont des aliments très attractifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? Voilà, c'est... Après, ouais. Bon, si vous voulez les identifier, donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous allez au marché, parce que là, il y en a à peu près 0%. Mm. Si vous allez en supermarché, prenez vos lunettes, lisez la liste des ingrédients. Alors, si vous voulez vraiment l'acheter, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas le manger régulièrement. Ouais. Ou alors, sinon, vous utilisez une application qui est l'application ScanUp, qui a le score SIGA du degré de transformation des aliments et qui vous permet de détecter avec 100% de réussite les aliments ultra-transformés.
Docteur Ferdé, quand on reprend le travail, quand on n'a pas forcément le temps de préparer à manger, d'aller au marché comme on fait pendant les vacances, comment on fait ?
Ben, c'est une très bonne question. Je pense que la question de fond qu'il faut se poser, parce que c'est la question qui revient souvent, on n'a pas le temps. D'abord, il faut vraiment se poser la question, n'a-t-on vraiment pas le temps ? C'est-à-dire, quelles sont nos priorités ? Est-ce qu'on n'a pas le temps parce que c'est pas dans nos priorités de bien manger ? Parce que bien manger, c'est aussi vertueux pour la planète. Alors, si c'est le cas que vous bien mangez quelque chose d'important pour vous et que vous n'avez vraiment pas le temps, il y a plein de manières de trouver des aliments de qualité qui sont industriels en grande surface. Vous avez les yaourts nature, vous avez les pâtes alimentaires au blé complet si possible, vous avez des fromages, des conserves. Vous pouvez acheter aussi des légumes surgelés. Vous pouvez acheter. Après, vous pouvez utiliser l'application ScanUp qui justement vous, dans son répertoire, vous donne tous les aliments industriels qui ne sont pas ultra transformés. Ouais. Donc c'est très pratique. Mmh. Et puis voilà, il faut savoir que si on revient vers des vrais aliments. C'est pas seulement vertueux pour la santé des gens, mais c'est aussi vertueux pour la planète, c'est-à-dire pour l'environnement, les animaux, les petits producteurs, les traditions culinaires, etc.
Voilà, restons vigilants et tentons de prolonger les bienfaits de l'été. Merci à vous, docteur Anthony Fardé, chercheur en alimentation préventive et holistique. Merci à vous.
Il est 18h24, restez avec nous, la suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec de la musique, avec le groupe Coldplay dans un instant, les titres de l'actu de ce samedi soir et la météo des plages. Ne quittez pas, on revient.
La suite de la deuxième journée de Ligue 1 avec une opération rachat pour l'Olympique de Marseille en déplacement cet après-midi à Nantes. Luc Folliot. La deuxième mi-temps va reprendre dans quelques minutes, c'est bien ça ?
Absolument, opération rachat pour l'instant toujours en cours parce que l'Olympique de Marseille est tenu en échec 0-0. On retiendra surtout ce pénalty manqué par Benedetto pour l'OM à la 30e minute. 0-0 la deuxième mi-temps dans un instant.
Merci Loïc, on se retrouve tout à l'heure dans le journal de 19h et dans le journal des sports de Marie Guida. 5 autres rencontres de cette deuxième journée de Ligue 1 à suivre ce soir bien sûr dans le multiplex d'Europe 1. En début d'après-midi en Ligue 2, Le Havre est allé s'imposer sur la pelouse de Lens sur le score de 3 buts. Des renforts dépêchés en Italie pour tenter de retrouver Simon Gauthier disparu au cours d'une randonnée dans une région à 200 km au sud de Naples. Les secours ne sont toujours pas parvenus à localiser précisément la zone où le jeune Français a été accidenté. Le gouvernement italien autorise le débarquement à Lampedusa de 27 mineurs migrants réfugiés depuis plusieurs jours sur le bateau de l'ONG Open Arms. Une centaine d'autres, des majeurs, sont contraints de rester à bord. Plusieurs pays européens, dont la France, se sont dit prêts à accueillir ces migrants sauvés en Méditerranée. Un rassemblement à Rennes aujourd'hui pour soutenir le maire de la commune de Langouette. L'élu est convoqué devant la justice pour avoir publié un arrêté interdisant l'utilisation des pesticides près des habitations. Et puis la police de Hong Kong a de nouveau violemment dispersé une manifestation d'opposants pro-démocratie aujourd'hui. Des manifestants qui appellent à une nouvelle manifestation de masse demain, dimanche.
Merci Lionel, vous revenez à 19h pour le journal complet. Votre météo des plages, Valérie Darmon, c'est limité pour bronzer. On commence par la Manche, Valérie.
Le ciel des côtes de la Manche s'éclaircit avec la fin de la pluie en tout cas, mais encore des nuages très très nombreux. Donc retour au sec, mais toujours à un ciel très gris entre Brest et Dunkerque, avec des valeurs aux alentours de 21 degrés sur le sable, tandis que l'eau est toujours aussi calme, toujours aussi belle, entre 18 et 21 degrés. Changement de cap sur le sud de la France. Alors du côté de Marseille, de Hyères et de Nice, là vous n'êtes pas du tout empoisonné par aucune dégradation de ce jour. En revanche, à partir du Canet jusque sur le cap d'Agde, alors là vous êtes sous la pluie et dans le vent, parce que le vent d'autant s'est levé, avec une alternance d'ailleurs de pluie et de belles éclaircies aussi, des températures aux alentours de 27 degrés sur les plages, tandis que la Méditerranée est très très calme, toujours entre 21 en Roussillon et 25 dans les Alpes-Maritimes. C'est très contrasté toujours sur l'arc atlantique, avec le retour des éclaircies sur la partie nord, du côté de l'Orient notamment, jusque sur la Vendée, ainsi que sur les Landes et le Pays Basque, tandis que du côté de l'estuaire de la Gironde et des Charentes, alors là vous êtes toujours un peu sous les averses, avec des valeurs pour l'eau entre 18 dans le Finistère Sud et 22 sur la côte basque.
Merci Valérie Darmon.
Votre grand journal du soir, la suite, c'est avec vous Thierry Dagiral. Les discussions vont durer 12 jours à Genève, en Suisse. Responsables politiques et experts de la conservation vont discuter pour tenter de trouver des solutions pour préserver les espèces menacées. Thierry, vous êtes en ligne avec Yann Verling, l'ambassadeur délégué à l'environnement.
Qui est à Genève donc. Bonsoir Yann Verling.
Bonsoir.
La convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction date d'il y a plus de 40 ans maintenant. Est-ce qu'il faut la revoir ? Est-ce qu'elle ne va pas assez loin finalement ?
Non, il ne faut pas la revoir. Chaque réunion, c'est tous les deux ans. On se retrouve, là c'est la 18e session. Ouais. Tous les deux ans, on se retrouve pour, au niveau de la communauté internationale, avancer sur la protection des espèces qui sont menacées par le commerce. Qui peut en être fait. Et on avance à chaque fois un petit peu. Des fois, il y a des reculs, mais on avance. Il s'agit pas de, au contraire, je pense qu'il faut renforcer ce type de rendez-vous. Ouais. Et puis surtout, j'allais dire, le point qui est un petit peu qui achoppe, hein, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'une espèce doit ne plus être commercée, ne plus faire l'objet d'une commercialisation, il faut que ça rentre en application dans les pays qui sont signataires, mmh, pour que effectivement ce commerce cesse dans les pays en question. Et puis que, autre chose, un braconnier est attrapé, eh bien la peine soit suffisamment dissuasive pour qu'il ne recommence pas. Et ça, c'est un autre volet du problème.
Alors on va rentrer dans le détail avec d'abord plusieurs propositions sur les éléphants d'Afrique. Il y en avait plusieurs millions en 1950, il n'en reste aujourd'hui que 400 000, c'est ça ?
C'est ça, et encore, il y a 10 ans, il y en avait 500 000, c'est-à-dire que la disparition et la décrue, la disparition des éléphants et de population d'éléphants, aujourd'hui, elle est très rapide, c'est à peu près 3% de la population chaque année qui disparaît. L'année dernière, il y a 30 000 éléphants qui ont été abattus en Afrique, par des braconniers essentiellement, hein. Il y a des endroits où la chasse est possible, mais il y a beaucoup d'endroits où elle est interdite, et c'est malheureusement un peu mélangé, parce que l'éléphant est une espèce migratrice, et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait une réglementation uniforme à l'échelle de tout le continent africain, ouais, pour que le commerce soit interdit partout, parce que sinon l'espèce va vraiment disparaître. Vous voyez, c'est un rythme effréné. 100 000 en 10 ans, il en reste 400 000, vous faites votre calcul, dans 40 ans, il n'y en a plus.
Et ça veut dire quoi ? Qu'il faut lutter plus massivement contre les filières de braconnage ?
Il faut harmoniser les règles. Aujourd'hui, vous avez, c'est un petit peu technique, mais la CITES, elle classe les espèces dans trois annexes, comme on dit, hein, c'est l'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3. L'annexe 1, c'est la catégorie la plus protectrice. Quand un animal se retrouve, une espèce se trouve dans l'annexe 1, eh bien, on n'a plus le droit du tout de commercer, de la chasser, de la tuer. On peut plus, elle est trop menacée pour qu'on continue le commerce. Donc, aujourd'hui, l'éléphant d'Afrique, par exemple, puisque vous avez pris cet exemple-là, il est classé en annexe 1 dans une grande partie des pays d'Afrique, mais il est classé en annexe 2, donc c'est un peu moins protecteur, dans 4 pays d'Afrique qui sont au sud de l'Afrique, parce que là on a encore le droit de faire. Mais sauf que l'éléphant, c'est un animal qui migre. Il connaît pas les frontières, et les braconniers non plus ne connaissent pas les frontières. Donc évidemment que si on veut réussir la protection de l'espèce éléphant, il faudrait que tous les éléphants, y compris ceux qui sont au sud, soient classés en annexe 1 pour qu'on ait une harmonisation des règles. Et ça aujourd'hui, c'est le débat, c'est compliqué, c'est pas gagné. Hein.
Ouais. Yann Verling, autre dossier, vous allez aussi pour la première fois vous penchez sur le cas des girafes, 40% en moins depuis 30 ans.
Oui, c'est pareil. Alors là, pour dire les choses aussi avec honnêteté, tout n'est pas un problème que de commerce et de braconnage. Il y a aussi, évidemment, ça, les spécialistes nous l'ont dit sur la biodiversité, les causes de disparition des espèces, c'est aussi la perte d'habitat naturel, les forêts qui disparaissent, ouais, l'urbanisation qui est galopante, etc. Mais les girafes sont aussi victimes de tout cela. Donc la cause de disparition des girafes, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi certainement le commerce. Parce que vous pouvez acheter des objets issus de girafes encore aujourd'hui, un peu partout, vous pouvez trouver ça, y compris sur Internet. Et évidemment que quand on constate la population de girafes est vraiment en train de baisser également de manière très forte, eh bien, la règle qu'il faudrait prendre, c'est d'interdire le commerce pour au moins agir sur ce volet-là de la disparition des girafes, qui est le commerce.
Et il sera aussi question, bien sûr, de la pêche intensive, sujet dont on parle régulièrement.
Oui, alors on raisonne en termes d'espèces, hein, donc il y a les baleines qui sont aussi à l'ordre du jour. Ouais. C'est un peu compliqué parce qu'il y a certains pays comme le Japon qui veulent continuer de pouvoir la pêcher à titre, comme ils disent, scientifique. En réalité, on le retrouve dans les assiettes. Hein. Nous, on porte par exemple l'Union européenne. Alors, il n'y a pas que les espèces emblématiques, je veux préciser ça. On parle aussi des espèces végétales. Et aussi, par exemple, la France et l'Union européenne portent une proposition de protection des concombres de mer. Alors, c'est peut-être moins glamour que les éléphants, mais c'est une espèce aussi qui mérite, on va dire, évidemment, notre attention. Et que nous, on cherche à protéger, parce que là aussi, il y a une surconsommation, une surpêche de ce concombre de mer, qui est un petit animal qu'on trouve dans les fonds marins à faible profondeur, et qui est très prisé dans la cuisine asiatique. Donc là aussi, nous, on souhaite que cette espèce soit classée pour qu'on en maîtrise le commerce et la consommation.
Rapidement, pour terminer, ça a commencé aujourd'hui, donc, pour 12 jours. Est-ce que vous espérez du concret, ou est-ce que ça peut rester finalement de belles discussions, pleines de bons sentiments, sans actes ?
Écoutez, il y a toujours, dans ce genre de convention internationale, vous savez, c'est plus de 180 pays, 182 pays qui peuvent s'entendre. Ouais. C'est beaucoup de monde à mettre d'accord. Donc, bon, en même temps, ici, on décide à la majorité des deux tiers. Donc, c'est pas perdu de mettre, on n'est pas obligé de mettre tout le monde d'accord. Il y a quelques victoires qu'on va certainement pouvoir avoir. J'espère qu'on va gagner sur les girafes. J'ai peur que sur les éléphants, ce soit partie remise, encore une fois, malheureusement, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais chaque fois, on essaye de gagner au moins sur un ou deux sujets, une ou deux espèces, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire, notamment sur les girafes. J'espère sur les éléphants. Mais je vais vous dire, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que tout ça, et je vous remercie de mettre ça dans votre journal, il faut que tout ça soit aussi saisi par l'opinion publique et les médias, parce que la pression de l'opinion publique, par exemple, sur les gouvernements qui vont décider de classer ou non l'éléphant, ça compte énormément. Les gouvernants, les décideurs qui sont là, vont devoir retourner devant leurs opinions publiques pour expliquer pourquoi ils n'ont pas voté pour la protection des éléphants. Et si l'opinion publique ne sait pas ce qui se passe ici, eh bien évidemment, ça se fait en secret et c'est bien le drame.
L'ambassadeur délégué à l'environnement en direct sur Europe 1 ce soir depuis Genève, Yann Verling. Merci à vous.
Merci à vous.
Il est 18h38, à suivre Thierry Dagiral, l'interview média.
Ouais, je vais vous emmener Géraldine dans les coulisses de Demain nous appartient. C'est le feuilleton qui cartonne sur TF1. 3 millions de téléspectateurs en moyenne cet été. On sera avec Sarah Faramand, c'est la productrice de ce rendez-vous. A tout de suite.
Et jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. C'est le moment de l'interview média. On va parler du feuilleton de TF1, Demain nous appartient.
Bonsoir Sarah Faramand.
Bonsoir.
Vous êtes la productrice de Demain nous appartient. C'est l'un des paris réussis de TF1 depuis maintenant 2 ans. On va se mettre dans l'ambiance tout de suite, générique. Voilà, c'est un carton, hein. C'était des 3 millions de téléspectateurs en moyenne tous les soirs à 19h20, du lundi au vendredi, 22% de part de marché. Ces chiffres, ils vous étonnent, ils vous comblent, j'imagine ?
Ils nous comblent complètement, ils nous font extrêmement plaisir, ils nous motivent pour écrire la suite, même si tout le monde travaille l'été, on est content de voir que le public suit et que ce rendez-vous reste inscrit dans leur quotidien, même pendant leurs vacances.
Parce que là, vous travaillez, hein. Vous êtes à 7, c'est-à-dire sur le tournage, sur le lieu de tournage de la série.
Exactement. Ben, on est diffusé tous les jours, donc on écrit, on tourne et on post-produit tous les jours.
Ça s'arrête jamais, quoi.
Jamais.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on comprenne bien quel est votre rôle, vous, productrice de cette série.
Alors, mon rôle, c'est de coordonner les différentes équipes qui fabriquent la série, les auteurs, les réalisateurs, les comédiens, les costumes, les décorateurs, les monteurs, voilà. toutes les équipes qui font qu'un épisode apparaît à l'écran et plaît au public.
Et que ça rentre dans le budget. Et que ça rentre dans le budget.
Mais c'est vrai que voilà, nous, il y a aussi beaucoup de décisions artistiques qu'on prend tous les jours pour que voilà, il y a une cohérence sur la série. C'est vrai que les équipes tournent et finalement, les producteurs sont les personnes qui restent un peu garantes de la série et qui transmettent la vision des talents avec lesquels on travaille d'une étape à l'autre. Donc, des auteurs aux réalisateurs, aux comédiens, aux monteurs.
Vous faites partie, vous, de l'aventure depuis le début, hein, depuis le commencement.
C'est
comment
ça.
Comment s'est passé le début du projet? Qu'est-ce que vous avez vendu à la chaîne? Qu'est-ce qui a plu à la chaîne?
Bah, c'était une décision de la chaîne hein, au début de créer une fiction quotidienne à cette heure-là, 19h20, qui était depuis toujours réservée à des jeux. Et ils se sont dit, il faut qu'on pense quelque chose de nouveau. On n'a pas de feuilleton quotidien, allons-y. Et de là, ça a été des discussions et beaucoup de travail avec eux pour créer une fiction qui corresponde à l'ADN de TF1, encore une fois, même si je veux parler pour eux, et qui plaisent au public en 2017 à l'époque. Mmh. Et voilà, aujourd'hui,
mais est-ce qu'on peut dire que TF1 voulait son plus belle la vie, qui cartonne, hein, on va en parler, sur France 3 depuis 2004?
Alors, c'est pas tant son plus belle la vie que de se dire que la plupart des grandes chaînes de télévision européennes, en tout cas, ont un, voire plusieurs feuilletons quotidiens. En Angleterre, il y en a quatre, en Allemagne aussi, il me semble, en Italie, en Espagne, c'est-à-dire, c'est pas normal que TF1 n'ait pas ce rendez-vous-là. Aujourd'hui, la télévision, ce qui va la marquer, c'est que c'est un média qui s'inscrit dans le quotidien des gens et qui est un média de rendez-vous. Et à ce titre-là, en fiction, la quotidienne en est le plus bel exemple.
Mais vous, Sarah Faramand, à la différence de France 3, vous tournez beaucoup énormément en extérieur. On l'a dit, à 7, c'était une volonté dès le départ.
Oui, c'était aussi de se différencier. La série doit faire rêver. Il y avait ce côté-là en extérieur. Il y a une ville qui est très photogénique. On a la chance qu'elle soit aussi à dimension humaine et qu'il y ait une cohérence dans le visuel de la ville pour qu'à l'écran, on reconnaisse toujours Seth quasiment comme le personnage principal de la série.
Vous faites d'ailleurs venir de nombreuses stars, des guests aussi régulièrement?
Oui, c'est vrai que ça fait partie des signatures de la série, de sans cesse créer l'événement et de sans cesse apporter des nouveaux visages dans la série et si possible, quand le rôle s'y prête évidemment, des visages que le public connaît déjà et qu'il a plaisir à retrouver.
Racontez.
En essayant de détourner un peu aussi l'image de certains. Là, c'est vrai que Véronique Jeannot tourne avec nous dans les épisodes que vous voyez en ce moment à l'écran. Mmh. Et là où on a vu un personnage qui est toujours doux dans l'empathie extrême et qui, en tout cas, l'image qu'elle véhicule depuis
des années,
quasiment le début de sa carrière.
Bien sûr.
En discussion avec elle, on s'est dit que l'amener là où on ne l'attendait pas, sur quelqu'un de plus rigide, de plus froid, de pétri de principes qui ne paraissent pas très en accord avec notre siècle, c'était surprenant et c'est ça qui allait plaire au public.
Ouais.
On adore Véronique Jeannot et en même temps, on ne s'attendait pas à la voir là-dedans. Ouais. On essaie toujours de prendre les gens par la main et puis une fois qu'ils sont dans notre main, de les secouer un peu comme un grand vite.
L'une des conséquences du succès de la série, c'est que les fans venaient voir les tournages. Du coup, vous avez dû reconstruire l'un des lieux stars de la série, le fameux bar, hein, le Spoon en studio.
Ça. Exactement, on a fait ça l'année dernière. On a tourné pendant une bonne année quasiment dans le Spoon.
Ouais.
Qui était sur les quais. Et effectivement, aux vacances de Pâques 2018, on s'est rendu compte qu'on était victime de notre succès.
C'est
entre le petit train qui passait et qui forcément citait ce lieu comme un des emblèmes touristiques, en toute modestie, de la ville. Et puis les fans qui le reconnaissaient parce qu'il était vraiment situé au centre-ville. On s'est dit qu'il était plus raisonnable désormais de tourner en studio pour ce décor-là.
Plus belle la vie, votre concurrent, entre guillemets. Sa patte, c'est...
Très entre guillemets, nous, on ne se considère pas du tout comme concurrent. Est-ce que vous dites que Profilage et Candice Renoir, ils sont concurrents?
Allez, je vous l'accorde.
Voilà.
En tout cas, la patte de Plus belle la vie, c'est de coller l'actualité au sujet de société.
Oui.
Vous, pas du tout?
Non.
C'est un choix?
C'est pour ça qu'on n'est pas concurrents.
C'est un choix?
C'est un choix, exactement, de dire qu'ils le font extrêmement bien depuis des années. Ils ont une vraie maîtrise de cet accord-là entre l'actualité et leur fiction. Nous, ce n'est pas un terrain sur lequel on est allé. On est beaucoup plus saga, romanesque. On a d'autres codes et je pense que c'est ça qui fait le succès de la série et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent aussi les deux parce qu'ils n'ont pas l'impression de voir une variation sur le même thème.
Ouais. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la rentrée. En octobre prochain, il va y avoir un acteur, Frédéric Diefenthal, qui va vous rejoindre.
Oui.
C'est pas le premier acteur connu qui rejoint la série. Le mois dernier, vous aviez lancé une invitation à Jennifer. C'en est où?
Ben, elle n'est pas encore revenue vers nous, mais l'invitation tient toujours.
Tient toujours. Il y a d'autres targets en vue ou pas ?
Pas pour le moment, parce qu'on a quand même déjà beaucoup de personnages et qu'il faut qu'on leur fasse vivre des choses. En fait,
ouais,
c'est le,
ouais.
Ce qui fonctionne dans une quotidienne, c'est que le public s'attache à des personnages, a envie de les voir évoluer, grandir, faire des nouvelles rencontres, vivre des histoires romanesques, des histoires d'amour, découvrir des secrets sur eux et faire tout le temps venir des nouveaux personnages.
Ouais.
Un épisode, ça dure 26 minutes. Donc à un moment, on ne peut pas étendre le temps. Et si on veut que les héros auxquels le public est attaché puisse grandir à l'écran, c'est pas possible de tout le temps faire venir de nouvelles personnes. Donc voilà, on le fait à bon escient.
Dernier point, Sarah Faramand. En juin dernier, vous aviez fait un prime, diffusé. Résultat, 4,2 millions de téléspectateurs. Vous avez confirmé la production d'un deuxième prime. Ce sera diffusé quand ?
Ça, je ne peux pas vous dire.
Oh ! Ça parlerait de quoi ?
Je sais que c'est une question qui revient souvent, mais je ne peux pas vous dire. On travaille dessus.
Et ça parlerait de quoi ?
Ah ben, on travaille dessus.
D'accord.
Là, c'est pas encore sûr. En revanche, je vais vous faire une réponse qui ne va pas vous satisfaire, mais il va être très différent du premier. Puisque on sait que ce qui plaît dans DNA, c'est qu'on surprend, qu'on alterne complètement les thématiques d'une arche à l'autre.
Ouais.
Et voilà, on va pas refaire une prise d'otage, une randonnée ou des vacances qui tournent mal. On sera dans un genre très différent. Maintenant, il faut trouver la bonne formule pour que ça se tienne quand même pendant une heure et demie.
C'est bien parce que vous êtes une bonne productrice, hein, vous savez teaser. Demain nous appartient, tous les soirs, 19h20 sur TF1. Sarah Faramand, la productrice, était avec nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous, Sarah, merci.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci.
Europe 1. Europe 1, il est 18h47, votre grand journal du soir de retour dans un court instant avec Thierry.
D'Agiral ? Oui, c'est ça, mon nom.
Oui.
Et avec le rendez-vous gourmand, le rendez-vous saveur, elle est là, elle va nous rejoindre en studio. C'est l'heure de notre balade gourmande avec Marion Sauveur. On va partir à Nice. Et quelle est la spécialité à Nice, Géraldine ?
La salade niçoise, bien sûr.
Et il faut seulement la cuisiner avec des légumes crus. C'est
d'accord.
Important. Voilà, à tout de suite. Oui, je suis toujours très heureux quand je vois Marion Sauveur. Bonsoir, Marion.
Bonsoir à tous.
Où est-ce qu'on part ce soir, Marion ?
Dans le sud.
Ouais, c'est large, hein.
Allez. c'est large.
On dit la Côte d'Azur.
Et oui, à Nice, exactement. Là-bas, on y déguste une spécialité qui sent le soleil du midi, souvent imité, et dont la recette possède un certain nombre de règles. C'est la salade niçoise.
Ah.
La salade niçoise, c'est une salade composée uniquement de légumes crus et du pays, de la tomate, des cébettes, ces petits oignons nouveaux allongés, des artichauts poivrades, les petits artichauts violets. Et on y trouve aussi du poisson et un œuf dur, et le tout arrosé d'huile d'olive, bien sûr. Alors la salade niçoise, c'est au départ une recette de famille, une salade de tomates améliorée avec les produits du jardin potager. Une salade qui a été répertoriée pour la première fois au début du XXe siècle. Alex Benvenuto, historien et spécialiste de la cuisine niçoise, m'a raconté comment.
Première référence que j'ai trouvée sur la salade niçoise, c'est d'un cuisinier qui était en même temps professeur à l'école polytechnique de Nice, Monsieur Hérault. Il a pour la première fois codifié cette salade qu'il a appelée salade niçoise. Là, nous sommes en 1909. On ne met que des tomates, des artichauts, un peu d'oignons, éventuellement du thon. Ensuite, la première fois où on parle dans toute la France de la salade niçoise, c'est grâce à un philosophe qui s'appelait Jules Romain, copain avec Matisse. Et dans le tome 17 des Hommes de bonne volonté, pour la première fois, on trouve écrit le terme de salade niçoise qu'il va manger sur les collines de Nice.
Et la recette de la salade niçoise a continué de se transmettre, notamment grâce au grand cuisinier Auguste Escoffier. Il a écrit sa propre version de cette salade composée en ajoutant des haricots verts blanchis à l'eau bouillante, des pommes de terre cuites à l'eau puis coupées en dés, mais aussi des câpres, trois ingrédients qui ne figurent pas dans la recette authentique de la salade niçoise.
Je comprends rien, Marion. Est-ce qu'il y a une recette officielle ?
Et oui, j'ai demandé à Alex Benvenuto les règles pour réussir la salade niçoise. La vraie, des bons ingrédients au dressage. Et donc voici ses conseils.
Lorsque vous préparez votre salade niçoise sur un grand plat, vous commencez à frotter de l'ail. On met un peu de mesclun tout autour. Nos tomates, on ne les coupe pas en rondelles, on les coupe en quartiers. Je vous assure que ça n'aura pas le même goût. On les épépine. Et puis, par-dessus, on va présenter joliment, d'ailleurs même Héro en 1909 dit qu'il faut présenter pour que ça soit beau. On va mettre les cébettes, on va mettre nos artichauts que l'on va tourner, que l'on va couper en petites tranches. On va mettre la petite févette, quelques radis de 18 jours. On mettra des olives de Nice qui s'appellent caillotiers. On met de l'œuf dur, c'est la seule chose cuite de la salade niçoise. On va mettre ensuite le thon à l'huile, les anchois par-dessus, et on peut commencer à saler, poivrer, mettre de l'huile. On ne mélange pas dans le plat, on sert chaque convive, et ensuite chaque convive est mélange dans l'assiette.
Et vous pouvez. Ah bah oui, j'espère. Vous pouvez ensuite ajouter du céleri ou du concombre. Encore que certains niçois estiment qu'il ne figure pas dans l'authentique salade niçoise. Vous pouvez aussi, dans votre assiette, vous resservir en huile d'olive et même ajouter du vinaigre, bien qu'il ne soit pas lui aussi indiqué dans la vraie recette. Pas facile, hein, d'autant qu'on ne trouve pas les ingrédients tout au long de l'été. Alors les inconditionnels de l'authentique recette vous diront qu'il vaut mieux ne pas mettre un ingrédient plutôt que de cuisiner avec des légumes importés. Vous avez compris ? C'est niçois. Alors maintenant que vous savez réaliser, Thierry, la salade niçoise, vous avez toutes les cartes en main pour faire aussi un pain bagna, puisqu'on met exactement les mêmes ingrédients dans ce sandwich niçois.
Bon Marion, chaque semaine, nous appelons un chef qui revisite la spécialité dont vous nous parlez. Aujourd'hui, c'est un niçois pure souche qui est avec nous. Bonjour Nicolas Rondelli.
Bonjour.
Vous êtes le chef des restaurants du relais Château Cap d'Antide Beach Hotel. Vous mettez en valeur les produits locaux et forcément, en tant que niçois, vous vous êtes attaqué à ce monument qu'est la salade niçoise.
Exactement, oui, je me devais en tant que niçois pure souche de revisiter un petit peu la salade niçoise. Alors je dis revisiter, on en sert deux, une sur le restaurant de plage qui est une salade niçoise tout à fait traditionnelle et une qui est revisitée pour notre restaurant gastronomique.
Alors comment vous la revisitez, dites-nous?
Alors celle qui est revisitée déjà, c'est sur le choix du thon, puisqu'on utilise un thon rouge de Méditerranée.
Donc un produit d'exception, du coup.
Un produit vraiment exceptionnel qu'on a la chance de recevoir régulièrement au restaurant. Et donc, on va servir un petit pavé de thon juste saisi à la plancha qu'on a fait mariner au préalable avec un petit peu de basilic et de l'ail. Et donc, on va servir ce thon très rosé à cœur, qui soit à peine tiède, très fondant. Et donc, c'est déjà la première partie qui est revisitée. On utilise ensuite une huile d'anchois pour assaisonner tous nos légumes. Donc, c'est simplement de l'huile dans laquelle on mixe des anchois au sel.
Et on ne retrouve pas du coup les anchois entiers du coup, dans votre plat.
On ne retrouve pas les anchois entiers. Voilà, j'ai utilisé plutôt une huile qui est plus douce, un petit peu moins, je dirais, agressive que l'anchois entier, qui est un petit peu fort et qui va permettre d'avoir un petit peu plus de finesse, mais de retrouver le goût caractéristique, on va dire, de l'anchois qui assaisonne les légumes.
Marion, vous savez, elle m'a amené la photo de votre plat, je l'ai devant moi. C'est une souffrance, vous savez.
Ça donne faim.
Marion.
Il y a une vinaigrette aussi extraordinaire dans ce plat dont il faut que vous nous parliez.
Alors voilà, c'est pour ça aussi qu'on appelle la niçoise revisitée, puisque j'ai fait une vinaigrette à base de poivron. Poivron qu'on a fait confire au four, dans un four à barbecue en fait, bien rôti, qui deviennent très goûteux. Et on les a mixés avec de l'huile, un petit peu d'ail, un tout petit peu d'anchois encore pour rappeler ce goût. Et donc, on vient déposer cette vinaigrette qui est un petit peu onctueuse et qui va venir donc faire la liaison entre les légumes, le thon, l'anchois, l'œuf dur où on utilise un œuf de caille. Et donc, tout ça se donne une harmonie assez sympa.
Nicolas Rondelli, quand on retouche un plat aussi mythique que celui-ci, on se fait engueuler par ses confrères. On a le droit de toucher un plat comme ça?
Bah écoutez, alors j'essaye d'être légitime dans le fait d'avoir revisité déjà en tant que niçois, et puis surtout en gardant les codes principaux de la salade niçoise sans la trahir, on va dire. Ouais. Mais pour l'instant, ça se passe bien avec mes collègues. Je me suis pas fait engueuler.
Merci beaucoup Nicolas Rondelli. On peut déguster votre salade niçoise gastronomique au restaurant Les Pêcheurs, une version plus traditionnelle de la salade niçoise au restaurant de plage Le Cap. Ça se passe donc au Relais Château Beach Hotel à Antibes.
Et puis,
Marion.
si vous voulez vous repérer à Nice, vous pouvez choisir un restaurant avec le label Cuisine Nissarde. Il est attribué à ceux qui œuvrent à la valorisation de la cuisine niçoise, ouais. En s'engageant bien sûr sur le respect des recettes. Vous avez compris, il y a des règles à Nice. Et vous, si vous souhaitez retrouver la vraie recette de la salade niçoise, je vous conseille l'ouvrage donc d'Alex Benvenuto, Carnet de cuisine du comté de Nice.
Merci beaucoup Marion, on vous retrouve demain. Et demain, on partira où ?
En Lorraine, puisque c'est l'heure de cueillir les Mirabelle.
Ah, et la Mirabelle, ça sent la fin de l'été quand même, ça.
Oh, pas encore. Un peu
allez,
de
à demain. À demain, Marion, merci.
Europe 1. Il est 18h58.
Et dans deux minutes, toute l'actualité à 19h. À la une ce soir, Emmanuel Macron à la commémoration de la libération à Bormes-les-Mimosas. C'est en ce moment. À tout de suite.
18h-20h. Thierry Dagiral sur Europe 1.
À suivre à 19h15, je recevrai Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Elle va réagir ce soir après le match Nancy-Le Mans qui a été arrêté hier soir en Ligue 2 après des chants homophobes. 19h30, on va prendre la route de vos festivals d'été, des festivals authentiques. Thierry Geffrotin nous emmène ce soir dans le Périgord, dans la Manche et en Bourgogne notamment. Et puis à 19h50, retour sur Actu ce soir, une date, le 11 décembre 2018, le jour de l'attentat de Strasbourg.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Bienvenue, il est 19h. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h, Thierry Dagiral.
L'essentiel de l'information avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Emmanuel Macron l'avait promis, le président de la République participe aux cérémonies commémorant la libération de Bormes-les-Mimosas, la commune où se trouve le fort de Brégançon, son lieu de vacances. Un geste du gouvernement italien en faveur des migrants de l'Open Arms, 27 d'entre eux des mineurs sont autorisés à débarquer sur l'île de Lampedusa. Le football avec la suite de la deuxième journée de Ligue 1, l'OM est à la Beaujoire cet après-midi face à Nantes, c'est la deuxième période. Loïc Folliot, quel est le score ?
Absolument, 73 minutes de jeu, 0-0 entre le FC Nantes et l'OM.
Merci Loïc, on vous retrouve bien évidemment tout à l'heure dans le Journal des Sports, présenté par Marie Guida à la fin de cette édition.
Europe 1.
Emmanuel Macron a de nouveau mis ses vacances entre parenthèses pour une cérémonie de commémoration, Lionel.
Souvenir de la libération de Bormes-les-Mimosas, la commune où il y a bien sûr le fort de Brégançon, où le président de la République passe ses vacances. Stéphane Frangy, vous êtes sur place pour Europe 1. Cette cérémonie, en tout cas l'intervention du président de la République, devrait débuter en début de soirée.
Oui, c'est bientôt le début de la cérémonie sur le parvis de la mairie. Le président de la République, qui est arrivé il y a quelques minutes à peine, accueilli par le maire de Bormes-les-Mimosas. Il y a du monde, environ 300 invités sur le parvis pour assister notamment à l'allocution du chef de l'État. Du monde, sans compter bien tous ceux qui attendent Emmanuel Macron aux alentours de la mairie, juste à côté, sur les hauteurs de Bormes-les-Mimosas, sur l'esplanade de la vieille ville, où on est en train de déployer un banquet. Et tout autour, eh bien, c'est un décor d'époque avec plusieurs véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, siglés tous de l'étoile blanche, des jeeps, bien sûr, des petites camionnettes de transport tout terrain, une traction, ça c'est pour la touche française, et puis le plus imposant, un char d'assaut avec une mitrailleuse et le Stars and Stripes, le drapeau américain qui flotte. Et c'est dans ce décor précisément qu'Emmanuel Macron doit profiter normalement d'un bain de foule tout à l'heure à l'issue de cette cérémonie.
Stéphane Frangy à Bormes-les-Mimosas pour Europe 1. Emmanuel Macron demain recevra Vladimir Poutine une semaine avant le G7 de Biarritz. Et dans le courant de la semaine prochaine, le président de la République rencontrera le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson à Paris. Rencontre qui se fera là aussi dans le cadre de la préparation du G7 de Biarritz. Un samedi particulièrement chargé sur les routes des vacances. Aujourd'hui, on a compté jusqu'à 745 km de bouchons cumulés sur les grands axes. Demain dimanche, Bison Futé prévoit encore une journée rouge, cette fois dans le sens des retours essentiellement.
Cet été, EDF lance une mise en garde en direction des vacanciers qui se baignent dans des retenues d'eau des barrages hydroélectriques.
Ouais, il faut dire que le nombre d'incidents, voire d'accidents sur les lacs artificiels a fortement augmenté, notamment en Bretagne cet été. Des vacanciers qui se livrent à des activités nautiques sans vraiment se préoccuper de leur sécurité, Maude Descamps.
Sur le barrage d'Aiguzon dans l'Indre, plusieurs vacanciers ont dû être rappelés à l'ordre juste avant des lâchers d'eau. Sur le barrage de la Rance, en Ille-et-Vilaine, pas moins de 7 incidents ont été enregistrés depuis le début de l'été. Kayak, petits voiliers ou simples nageurs qui se sont introduits dans les zones interdites à la baignade et à la navigation, à l'instar de cette pratiquante de paddle obligée de sauter de sa planche et de s'accrocher à une corde pour ne pas dériver vers le barrage. Chaque année, EDF est obligée de jouer aux gendarmes avec certains vacanciers et de faire beaucoup de pédagogie, comme l'explique Frédéric Buard, chargé de la maîtrise des risques.
On peut trouver des vacanciers sur les îlots qui sont sur la rivière. Donc ça peut être dangereux pour eux lors du démarrage de l'installation. Le courant peut augmenter très rapidement et donc ils peuvent être emportés par une vague, par le courant et être plus mis en difficulté que s'ils étaient bien plus loin de la zone.
Cet été, 160 hydroguides, souvent des étudiants recrutés pour la saison, ont été déployés par EDF sur les barrages qui accueillent notamment des bases de loisirs nautiques pour informer les vacanciers.
Mode des camps. Des renforts dépêchés en Italie pour tenter de retrouver Simon Gauthier, disparu au cours d'une randonnée dans une région à environ 200 km au sud de Naples. Les secours ne sont toujours pas parvenus à localiser précisément la zone où le jeune Français a été accidenté depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Une centaine d'habitants de la commune de Langouette ont manifesté cet après-midi devant la préfecture de Rennes. Ils soutiennent le maire de leur village qui doit comparaître jeudi prochain devant le tribunal administratif pour l'arrêté municipal qu'il a pris, interdisant l'utilisation des pesticides près des habitations. Un arrêté dont la préfecture demande l'annulation.
Un espoir pour les jeunes migrants sauvés en Méditerranée et bloqués depuis plusieurs jours sur le navire de l'ONG Open Arms.
27 migrants mineurs ont été autorisés à débarquer sur l'île de Lampedusa, mais une centaine d'autres, des majeurs, sont eux contraints de rester à bord. On retrouve en Italie notre correspondante Blandine Hugonnet.
Un à un, ils sont aidés par les médecins en combinaison blanche pour descendre sur le sol italien. Cet après-midi, dans le port de Lampedusa, c'est le soulagement pour les 27 mineurs isolés africains. Mais à quelques centaines de mètres de là, sur le navire Open Arms, pour les 107 migrants qui restent encore à bord, regardez, ce débarquement est insupportable. Surtout après plus de 15 jours d'attente en mer, la situation est explosive. L'Open Arms est une bombe humaine à retardement, alerte le capitaine du bateau. C'est Matteo Salvini qui a fini par accepter de laisser descendre les plus jeunes rescapés. Une décision inhabituelle, prise à contre cœur, précise le leader de l'extrême droite. En pleine crise de son gouvernement, il veut montrer qu'il est capable de collaborer, en particulier avec le mouvement 5 étoiles avec qui il dirige l'Italie. Mais c'est surtout une façon de rappeler son pouvoir de ministre de l'Intérieur anti-migrants. Lui seul peut autoriser l'accostage des navires humanitaires. Pour l'Open Arms, pas d'exception. Matteo Salvini reste ferme et prévient. Les migrants, encore à bord du bateau espagnol, n'en descendront pas tant que les 6 pays européens, qui se sont dit prêts à accueillir ces rescapés, n'ont pas signé formellement un accord. Rome Blandine Hugonnet, Europe 1.
À Hong Kong, la police a dispersé une manifestation d'opposants au régime de Pékin aujourd'hui. Un nouveau rassemblement de plus grande ampleur, celui-là, est également prévu demain dimanche.
On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Nous irons à Londres, où Noël se prépare déjà là, en ce moment. Mais oui, à tout de suite.
Europe 1, 19h07, suite de votre journal, Lionel Gougelot, Thierry Dagiral.
Et ça va vous paraître un peu saugrenu, mais voilà, à Londres, Lionel, un grand magasin ouvre un rayon de Noël.
Ouais, il s'agit du très select magasin Selfridge, c'est un peu l'équivalent de nos Galeries Lafayette en France. Alors évidemment, c'est une opération commerciale qui ne trompe personne et qui permet de faire le buzz en plein été. N'empêche, ça a l'air de beaucoup amuser les clients et les touristes. Reportage de notre correspondante Anaïs Cordoba.
En robe d'été, Cathy et Sam se prennent en photo devant le grand sapin qui trône au milieu du rayon de Noël. Pour ces deux amis, c'est déjà le top départ du shopping des fêtes de fin d'année.
Oui, on est un peu folle. Je déteste le stress de Noël, donc moi, mon shopping de Noël, c'est fini en octobre. Et je monte mon sapin de Noël le 1er décembre, donc il faut que tout soit prêt.
Il y a ceux qui s'y prennent à l'avance, mais aussi de nombreux touristes comme Aurore, venue de Lyon, qui s'apprête à compléter sa collection de boules de Noël.
Une boule en verre en forme de Big Ben avec un petit chapeau de Noël dessus, tout simplement. Une boule qu'on ne trouvera pas en France. Ça fait plaisir de trouver des boules de Noël en plein mois d'août. Comme ça, on peut se faire plaisir un petit peu toute l'année.
Depuis plusieurs années à Selfridges, l'opération Noël en été est un succès commercial, même si tout le monde n'est pas convaincu comme Ed.
Moi, je suis traditionnel. J'aime passer les fêtes les unes après les autres. Nous n'avons même pas encore passé Halloween, ni même fini les congés d'été.
Parmi les décorations les plus excentriques, des Pères Noël judoka ou surfeurs, mais ce n'est qu'un avant-goût, c'est en septembre que l'ensemble de la collection est mise en vente. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Voilà, Thierry. et quand vous aurez fini les courses de la rentrée des classes, vous pourrez filer à Londres pour préparer Noël.
Mais merci à vous, dites donc. Ah non, on termine quand même, Lionel, avec un anniversaire, j'allais oublier.
Évidemment. Ça vous dit sans doute quelque chose.
Oh oui.
Il y a 60 ans, jour pour jour, paraissait un album devenu un véritable mythe du jazz, Kind of Blue de Miles Davis. Il avait été enregistré à l'époque à New York et c'est sans doute le disque de jazz le plus vendu de tous les temps. Il a influencé des générations de musiciens. Écoutez Frédéric Goati, il est le directeur de la rédaction de Jazz Magazine.
Il est très spécial ce disque parce que 60 ans après son enregistrement, on n'a toujours pas réussi à s'en lasser parce qu'il fait partie des rares disques de jazz qu'on croit connaître par cœur. Et en fait, non. Parce qu'à chaque fois qu'on le réécoute, on a toujours l'impression que c'est la première fois. Il y a une magie, il y a quelque chose d'extrêmement singulier, d'unique dans ce disque. Parce que c'est plus qu'un disque, en fait, c'est un miracle. Il a été enregistré en deux séances. Et lors de ces deux séances d'enregistrement, les musiciens ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Puisqu'il n'y avait pas de morceaux très précis à jouer. Il y avait des esquisses, des directions données par Miles Davis. Très peu de choses. Et le miracle s'est produit. C'est un disque qui est au jazz que la Joconde est à la peinture. Ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jazz, peu importe. C'est un disque qui va au-delà des étiquettes, au-delà des genres. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être touché par Kind of Blue. Ça me semble impossible.
Frédéric Goati, directeur de la rédaction de Jazz Magazine, donc pour les 60 ans de Kind of Blue. Alors, 60 ans de Kind of Blue de Miles Davis. On fête aussi cette année les 50 ans d'Abbey Road, hein, des Beatles. Deux incontournables de votre discothèque, j'imagine.
Bah oui, exactement. Vous êtes plutôt Beatles, vous ?
Plutôt, oui.
Plutôt, allez, j'achète. Merci, c'était le journal de Lionel Gougelot. La météo à présent, Valérie Darmon. Le ciel va rester chaotique, hélas, demain, Valérie.
Et oui, et dans le nord et dans l'ouest de la France, vous passez la matinée sous des pluies soutenues et un vent assez fort à 60 km/h. Cette perturbation atteindra l'Aquitaine, le Val-de-Loire, les Ardennes, la Lorraine dans l'après-midi et des Pyrénées au Roussillon, à l'Alsace et du Massif central aux Alpes. Là, le ciel s'ennuagera au fil des heures beaucoup plus progressivement et les orages éclateront surtout dans la soirée avec des rafales de vent et des risques de chute de grêle assez forts. Vous restez à l'écart de cette agitation en Provence-Côte d'Azur et en Corse avec un soleil qui domine. Les températures de l'après-midi, 20 à Saint-Brieuc, 21 à La Rochelle, 23 annoncés à Évreux et à Paris, 28 à Périgueux, à Nevers et Épinal, 31 à Toulouse et Clermont-Ferrand ainsi que Strasbourg et enfin 33 à Lyon.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec Marie Guida, bonsoir Marie.
Bonsoir.
On commence avec le football et la deuxième journée de Ligue 1.
Et un match en cours, les Marseillais qui se déplacent sur la pelouse de Nantes. Et pour le moment, les deux équipes sont toujours dos à dos, Loïc Folio.
Absolument, 84 minutes de jeu, toujours ce score de 0 à 0 et deux formations qui cherchaient à se rassurer. Eh bien, ce sera partie remise pour l'Olympique de Marseille, même si les Phocéens venaient à remporter cette rencontre. Parce que dans le jeu, eh bien, ils n'ont absolument rien montré. C'est un match extrêmement terne. Et c'est même Steve Mandanda qui s'est particulièrement illustré il y a quelques instants sur des frappes successives de Bamba, Giroto, Touré. Et Louza, superbe parade successive du portier phocéen. On notera que les Marseillais ont raté un pénalty à la 30e minute en première période par l'intermédiaire de Benedetto qui a expédié sa frappe dans les nuages. 0-0 entre le FC Nantes et l'OM. C'est la 85e ici à la Beaujoire.
Merci Loïc Folio en direct de Nantes pour Europe 1. Hier, Lyon a écrasé Angers 6-0. La suite de la deuxième journée est à suivre dans le multiplex d'Europe 1 avec Lionel Rousseau ce soir à partir de 20h. En mode Ligue 2, Lens s'est incliné à domicile contre le Havre. Clermont est leader de Ligue 2 et dans les championnat étranger pour être complet. En Angleterre, Arsenal s'impose 2-1 contre Burnley, victoire de Liverpool sur le terrain de Southampton. En Espagne, victoire du Real Madrid, 3-1 sur la pelouse du Celta Vigo. Hier, le Barça s'est incliné 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Et enfin, en Allemagne, hier soir, début compliqué aussi pour le Bayern, accroché 2-2 à domicile contre le Hertha Berlin.
Le rugby à présent, Marie, et le 15 de France qui joue ce soir son premier match amical en vue du mondial, bien sûr.
Oui, la Coupe du monde, c'est effectivement dans moins d'un mois et forcément, on est un peu curieux à l'idée de voir ce 15 de France, nouvelle version sur le terrain. Les Bleus, désormais coachés par le tandem Brunel-Gatier, ont énormément travaillé depuis 8 semaines. Ils sont en stage intensif pour revenir au meilleur niveau mondial. Alors ce soir, contre l'Écosse, on n'aura sans doute pas toutes les réponses attendues. On peut même imaginer que les joueurs ne seront pas encore au top. Simon Rubin, vous êtes notre envoyé spécial. Simon, ce soir, on aura quand même un aperçu du travail accompli jusque-là.
Oui, c'est pas le match le plus important de l'année, hein, et pourtant on l'attend avec beaucoup de curiosité, ce France-Écosse, parce qu'on va avoir un aperçu ce soir de l'état des forces françaises. Hein, une victoire indiquerait que les Bleus sont sur une voie encourageante à un mois de la Coupe du Monde. Alors on sait qu'ils seront pas physiquement au top, hein, la préparation a été exigeante, mais on va avoir déjà peut-être une indication d'un niveau technique. Alors en revanche, une défaite enterrerait quasi définitivement les maigres espoirs qui persistent encore autour du 15 de France. Hein. Ce n'est donc pas un match anodin, loin de là. Match qui se fera sans certains joueurs clés, hein, blessés ou éreintés par la préparation. On a le capitaine habituel Guilhem Guirado qui est absent, Geoffrey Doumerou qui est carrément forfait pour le mondial, et puis d'autres joueurs comme Loré ou encore Camara qui font partie de ces rugbymen laissés de côté pour cette rencontre.
Simon Rubin depuis Nice, coup d'envoi 21h05, un match à suivre dans Europe 1 Sport.
Le tennis, Richard Gasquet brille avant l'US Open à la fin du mois.
Oui, au tournoi de Cincinnati aux États-Unis, 8 mois après son opération d'une hernie, Richard Gasquet s'est qualifié pour la première fois depuis 2013 à une demi-finale d'un tournoi de Master 1000. Il sera opposé au Belge David Goffin. En revanche, Lucas Pouille s'est incliné en quart de finale contre Djokovic. Et pour terminer, un bon basket, la France s'est imposée hier soir 86-72 contre le Brésil. Elle rejouera dès ce soir à 20h30 son dernier match de préparation en France face à l'Argentine avant de s'envoler pour la Chine. Leur premier match du mondial, ce sera le 1er septembre à Shenzhen contre l'Allemagne.
Et c'était le journal des sports présenté par Marie Guida.
Europe 1. Il est 19h15. À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Eh bien, on va revenir sur ce match Nancy-Le Mans en Ligue 2 arrêté hier soir après des chants homophobes. La réaction ce soir sur Europe 1 de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en direct dans 2 minutes avec nous.
Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Un match de foot de Ligue 2 entre Nancy et Le Mans s'est arrêté hier soir à cause de chants homophobes. Avec vous ce soir en ligne pour en parler, Thierry, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Bonsoir Roxana Maracineanu.
Bonsoir.
Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Vous avez écrit sur Twitter au sujet de cet arbitre qui a stoppé ce match hier soir. C'est une première et une dernière, je l'espère. Plus jamais cela, vous dites.
Oui, c'est vrai que c'est dommage que la saison commence de la sorte, avec un peu cette provocation, hein, on peut le dire, de la part des supporters nancéens, puisque ces injures n'étaient même pas destinées, si j'ai bien compris, aux adversaires, mais plutôt à leurs adversaires historiques, les Messins, et puis derrière à la Ligue de football. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de saluer la position, la prise de position et du speaker et du corps arbitral. Ouais. Et puis derrière tout ça, évidemment, de la Ligue française de football qui a pris ses responsabilités pour appliquer le règlement, tout simplement.
Et il faut citer l'arbitre, hein, qui a eu le courage de stopper le match, Mehdi Mokhtari. La question de fond, c'est finalement comment on change le comportement des supporters ?
Bah déjà en parlant, parce que le mettre déjà des mots dessus, c'est aussi mettre le sujet à l'ordre du jour du match, mais aussi de la société en général. Parler de ces cris et propos et chants homophobes dans un stade de foot, c'est aussi, quand on entend ça à la radio et qu'on parle de foot, avec l'intérêt que portent nos jeunes au football aujourd'hui, c'est aussi de leur expliquer ce qu'est l'homophobie de manière générale dans la société. Donc en parler dans le foot, c'est aussi en parler dans la société. Et puis maintenant, voilà, que ça change, évidemment, on a envie, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe dans un stade de foot alors que ça n'a pas lieu d'être dans la rue, dans la société. Ça concerne une poignée de supporters, c'est pas non plus tout le stade, hein, qui fait ça, donc on espère que l'arrêt du match, ce sera déjà voilà, une prise de conscience, une prise déjà de position, et puis on attend aussi la responsabilisation des autres spectateurs. Quand on entend ça à côté de soi, c'est aussi une manière de dire, mais arrêtez de chanter des choses comme ça, et de dire des choses comme ça dans un stade de foot, parce que moi, mes enfants sont là et j'ai pas envie qu'ils entendent ça, par exemple.
Madame la ministre, éduquer les jeunes, vous dites, comment on s'y prend concrètement ?
Alors, on a parlé d'éducation aux supporterismes. C'est vrai qu'à 4 ans des Jeux Olympiques, on va accueillir le monde avec cette envie aussi de supporter nos athlètes, nos équipes. On a envie voilà, d'entendre des belles chansons dans les stades, d'encourager vraiment...
Ah, Roxana Maracineanu, est-ce que vous êtes avec nous ? Vous nous entendez ? Madame la ministre ? Écoutez, on va faire une pause publicitaire. On se retrouve dans un instant avec la ministre des Sports.
Europe 1, il est 19h21. Avec vous ce soir en ligne, Thierry, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Oui, madame la ministre, je vous le disais, comment on s'y prend concrètement pour éduquer les jeunes dans les clubs, auprès des jeunes ? Vous êtes là, vous m'entendez ?
Oui, je suis là. L'éducation au supporterisme dont on a parlé toute cette année, c'est aussi un programme qu'on aimerait lancer où les enfants, dans le cadre de l'école, dans le cadre des associations sportives, pourraient vraiment apprendre ce qu'est le spectacle sportif pour qu'on leur apprenne ce qu'est le troisième homme dans le sport, c'est-à-dire au-delà des deux adversaires, qu'on a besoin d'un public. Je crois qu'à 4 ans, 5 ans des Jeux Olympiques qu'on va accueillir en France, c'est important de parler de ce qu'on doit faire, de ce qu'on peut faire en fait pour amener à la victoire nos Français, nos équipes françaises, nos sportifs qui vont s'aligner. Et voilà, en dénonçant aussi ce qui n'est pas bon d'entendre dans un stade, c'est-à-dire pour soutenir son équipe, on n'a pas besoin d'injurier l'équipe adverse, mais au contraire d'être positif avec les sportifs qui sont sur le terrain. C'est aussi parler du sport autrement. Et là, ce qu'il faut aussi souligner, c'est effectivement aussi l'engagement, je crois, des sportifs, des joueurs qui étaient ce soir-là au stade et qui se sont, ces joueurs nancéens, adressés aux supporters et leur ont dit qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de ça. Puisqu'en fait, les supporters, ce qu'ils disent souvent, c'est oui, bah, c'est pour déstabiliser l'équipe adverse, mais c'est aussi important que les sportifs s'expriment et qu'ils leur expliquent ce qu'est leur... véritable enjeu, être soutenu par un public, ça ne veut pas dire qu'on a besoin que l'équipe adverse soit déstabilisée.
La Ligue de football professionnel a pris plusieurs initiatives pour lutter contre l'homophobie. Je pense notamment au brassard arc-en-ciel. Là encore, du côté de la fédération, du côté de la Ligue, comment on peut aller plus loin ?
Oui, ça c'est aussi un autre combat, finalement, un combat de société, de dire que l'homosexualité, on peut en parler dans le sport, on peut être homosexuel et pratiquer un sport. C'est vrai que c'est encore problématique dans certains sports, donc c'est bien de le dénoncer, notamment en football où être homosexuel, c'était difficile pour pratiquer le football, être accepté au sein d'une équipe. On l'a vu avec le football féminin aussi, dont on a beaucoup parler du sport en mixité aussi, c'est quelque chose d'important. Et ça touche certains sports en particulier, donc c'est vrai que le football est beaucoup touché par tout ça, mais c'est aussi celui qui est le plus exposé, donc la prise de position de la Ligue, je crois, est très utile. C'est bien qu'elle était suivie par les arbitres qui, je crois, attendaient vraiment ça depuis un moment, parce que y a, c'est vrai, les discriminations raciales, mais il y a aussi les discriminations homophobes, et du dire de certains arbitres avec qui j'ai discuté, c'est vrai que pouvoir appliquer maintenant le règlement et pouvoir interrompre les matchs pour des cris homophobes, je pense qu'ils vont le faire de plus en plus, et j'espère que ça va se faire aussi à un niveau plus important en Ligue 1.
Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Autre dossier, je rappelle que vous avez été championne du monde de natation, bien sûr. Hier, le nageur Alain Bernard, double champion olympique, a donné main forte aux sapeurs-pompiers d'Antibes pour prévenir les noyades et enseigner les bons gestes. Votre ministère a d'ailleurs lancé une grande campagne de prévention.
Oui, on a lancé depuis le mois de mai dernier ce plan de lutte contre les noyades qui a vu vraiment son apogée là cet été. L'idée de ce plan, c'est effectivement de travailler plus et mieux à l'école et dès l'école maternelle pour que les enfants, à partir de l'âge de 4 ans, puissent être mis en situation d'apprendre à nager, d'évoluer en sécurité dans l'eau. On ne parle pas là des nages telles qu'Alain, Bernard ou moi-même savons les nager, mais simplement pouvoir traverser sur une quinzaine, une vingtaine de mètres en étant capable de reprendre sa respiration, aller sous l'eau. Donc des choses basiques, mais qui permettront aux enfants d'évoluer dans l'eau en toute sécurité, sans brassière, sans frites, sans matériel de flottaison. Pour ça, on va rénover avec Jean-Michel Blanquer la natation scolaire et proposer dès la maternelle une natation avec des apprentissages massés. Donc une fois chaque jour pendant une semaine ou 15 jours. Ça se fait déjà dans certains pays avec du succès, avec des succès certains. Le monde associatif va nous aider à ça, pas seulement de la natation, mais aussi d'autres fédérations de canoë-kayak, de triathlon, la fédération de voile et la fédération de natation qui vont s'engager à nos côtés pour ça. Et puis derrière, il y a aussi tout l'aspect des pisciniers, de ceux qui proposent à la vente des piscines familiales, des piscines qu'on construit de plus en plus avec la canicule qui grandit d'année en année. Et on a aussi besoin de l'engagement de ces pisciniers à nos côtés. Et dès la rentrée, on va les réunir pour leur proposer de s'associer à notre plan de lutte contre les noyades. Et j'espère aussi que on sera plusieurs ministères à travailler autour de cette problématique qui, chaque année, chaque été, pose une vraie problématique. Et c'est important qu'on s'y attache dès la rentrée pour pouvoir être prêts dès juin prochain à agir tous ensemble.
Parce qu'il faut rappeler hein, ce chiffre, 330 noyades d'enfants par an. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à nous en direct sur Europe 1. Un grand merci à vous, madame. Merci.
Merci à vous. Bonsoir.
Merci.
Europe 1. Il est 19h26. Restez avec nous. On va faire une courte pause et un peu de musique pour vous accompagner ce soir.
Et puis à 19h30, les festivals d'été avec Thierry Geffrotin. Alors à 19h38, on va parler woofing avec Sophie Massieu. Vous ne savez pas ce que c'est, Géraldine ?
Du tout.
Elle va tout nous dire dans un instant. 19h48, retour sur Actu. On s'arrête sur un moment fort de l'actu de cette année. Ce soir, le 11 décembre 2018, le jour de l'attentat de Strasbourg. Je recevrai le philosophe Cyril Brett.
Mais d'abord, Thierry, comme tous les samedis, on part en balade en France sur la route des festivals musicaux d'été.
Oui, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, disait Platon. Envolons-nous avec vous, Thierry Geffrotin. Bonsoir.
Je me sens tout petit. Bonsoir Thierry.
On parle de quel festival ce soir ?
Eh bien, je vous emmène d'abord à la Côte-Saint-André pour le festival Berlioz. La Côte-Saint-André, c'est là où Berlioz est né. Alors Berlioz, cette année, 150e anniversaire de sa mort. Il est décédé le 8 mars 1869. Donc vous imaginez le festival Berlioz cette année. La thématique, c'est le roi Hector. Ni D'accord. plus ni moins. Alors, il y a des choses incroyables. Par exemple, il y a un grand opéra de Berlioz qui s'appelle Les Troyens, qui va être donné, alors il est tellement long, cette année, on aura le premier et deuxième acte, et l'année prochaine, troisième et quatrième acte. Mais surtout, ça s'appelle Les Troyens. Donc, dans la région, Bruno Messina, qui est la cheville ouvrière, le patron, c'est le fou furieux de Berlioz, qui connaît tout sur Berlioz, il a fait construire un cheval de Troie par les élèves de lycée professionnel, par des bénévoles, par des techniciens, et c'est présenté à partir d'aujourd'hui, puisque le festival ouvre aujourd'hui. Alors, c'est vraiment, si vous aimez Berlioz, c'est un compositeur assez incroyable, Berlioz. Il était tout. Il était à la fois grand écrivain, grand compositeur, grand orchestrateur. Il faisait parler de lui. Enfin, c'était... Et sa musique, on retrouve tout ça dans sa musique. On pense évidemment à la Symphonie Fantastique qui sera donnée le 29 août. Vous aurez la prise de Troie, je vous dis, de Berlioz, qui sera donnée le 24 août. D'accord. Et puis, des œuvres moins connues, comme l'ouverture du Corsaire. Vous ne connaissez pas ? Écoutez plutôt.
Du Corsaire, donc à découvrir au Festival Berlioz à la Côte-Saint-André.
Ce soir. Oui.
Et ça dure jusqu'au 1er septembre. On prend la direction du Périgord à présent, Thierry.
Oui, Symphonia en Périgord, 29e édition. Vous voyez, les festivals en général, ils ont la vie dure. Oui, ils perdurent parce que je vous parlais des bénévoles, c'est très important.
Ils sont très installés dans les régions,
ils sont installés, exactement. Donc Symphonia en Périgord, c'est devenu vraiment le rendez-vous incontournable pour ceux qui aiment la musique baroque. C'est au cœur du Périgord. Ouais. Une vingtaine de concerts, des rencontres sur une semaine dans une dizaine de lieux, des églises, des abbayes, même en extérieur. C'est vraiment un très très beau festival. Je vous le conseille si vous êtes dans le Périgord. Et il y aura notamment, alors parmi toute la programmation, il y aura du Vivaldi avec le Gloria et Magnificat de Vivaldi. Vous dites, ah, encore du Vivaldi. Oui, mais c'est donné par le concert spirituel et Hervé Niquet, le grand chef d'orchestre. Et voilà ce qu'il écrit à propos de Vivaldi, je le cite, parce je trouve ça génial. Faire du Vivaldi, c'est tout simplement euphorisant. Tout le monde doit être au maximum de ses capacités, jeter toutes ses forces dans la bataille, et de ce fait, cette musique libère une énergie folle. L'aborder, c'est un peu comme aller à un cours de yoga. On rechigne parfois à s'y rendre, mais au final, on baigne dans la plus grande jubilation.
Vivaldi donc au festival Symphonia en Périgord, c'est du 24 août au 31 août. Alors maintenant, un festival très original.
Ah, chez moi.
C'est dans la Manche, chez vous.
Ouais, c'est quasiment chez moi qui suis canet. C'est les Traversées de Tatillou. Ouais. Alors Tatillou, c'est une toute petite île en face Saint-Valaou, qui est le plus beau village de France. Cocorico, ça a été, on l'a dit.
Quel
chauvinisme. Ouais. Et à marée basse, il y a 1,5 km. Ouais. Vous passez quand la mer descend. Vous allez, alors parfois vous avez de l'eau quand même. Et puis vous arrivez sur l'île. et vous avez un concert et vous repartez avant que la mer ne soit
c'est
haute.
Ça, ça faut que je démarre.
C'est génial. Hein. Et donc ça commence le 23 août, ça dure jusqu'au 1er septembre, c'est la 25e édition. Alors là, on est un peu dans les musiques du monde, un peu les musiques celtiques. Enfin, c'est vraiment un endroit où on peut se faire plaisir. Il n'y a pas qu'à Tatiou hein, où il y a des... où il y a des concerts, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller sur l'île de Tatiou, c'est quand même très sympathique. Et cette année, il y aura notamment Alan Stivell.
Alan Stivell, donc au festival des traversées.
Je sens que ça vous plaît.
Alan Stivell
oui.
Ah oui. Ouais. Et puis la balade aussi me tente bien. Ça peut être marrant d'aller faire des concerts en fonction des marées.
Ah, c'est chouette.
Rien que pour ça,
ouais,
j'ai envie de voir l'endroit.
Ouais, ouais, ouais.
C'est du 23 août, donc au 1er septembre. On va terminer par la Bourgogne, Thierry.
Oui, les rencontres musicales de Vézelay. Ouais. On est dans Lyon du 22 au 25 août. Alors, si vous aimez l'art choral, j'allais dire le chant choral, mais on va dire plutôt l'art choral, si vous aimez les voix, c'est là qu'il faut aller absolument. Si vous êtes un peu baroqueux, si vous aimez la musique du 18e, vous serez servi, puisqu'il y aura notamment du Handel, vous aurez du Bach avec la grande messe de Bach, la messe en si mineur. Il y aura aussi un Requiem allemand de Brahms, c'est une œuvre colossale, hein, vraiment. C'est des œuvres qu'il faut avoir au moins entendu une fois dans sa vie en concert, parce qu'entendre au disque ou à la radio, ce n'est pas la même chose. Et je vous disais qu'il y avait du Handel, et il y a un ensemble magnifique là, qui traite particulièrement tous ces compositeurs du 18e avec comment dire, un amour et sa sentence, c'est l'ensemble Vox Luminis qui donnera une œuvre de jeunesse de Handel. Il a composé ça, il avait 20 ans, vous imaginez ouais. C'est le Dixit Dominus.
Les rencontres musicales de Vézelay de jeudi prochain jusqu'au 25 août. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. On se donne rendez-vous samedi prochain.
Avec plaisir.
Pour plein de nouvelles balades encore. Merci.
Europe 1. Il est 19h36. À suivre dans votre grand journal sur Europe 1, les métiers d'été. Et ce soir, zoom sur la profession de viticulteur.
Et juste avant, on va partir dans des fermes biologiques. Ça, c'est un bon plan pas cher. C'est ce qu'on appelle le woofing. A tout de suite. Europe 1.
Notre grand journal du soir, la suite avec les bonnes idées du samedi soir, Thierry Dagiral.
Et avec Sophie Massieu. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Alors ce soir, vous m'avez demandé en rentrant dans le studio si j'étais prêt à tenter l'aventure.
Ouais, est-ce que vous voulez woofer avec moi?
Woofer?
Oui.
D'accord, oui, ça veut dire quoi?
Ah, je vois que vous vous méfiez. Bon, ça va, allez, je vous explique. Le woofing, c'est le fait de donner du temps, de participer aux activités d'une ferme bio. Cela vient de l'anglais Worldwide Opportunities on Organic Farms.
D'accord, concrètement, voilà. Ça veut dire quoi?
En clair, ça veut dire vous aidez les agriculteurs pendant à peu près 25 heures dans la semaine et en échange, vous êtes nourris et logés. Alors, vous nourris, je ne sais pas, parce que peut-être que vous mangez trop, mais enfin, en théorie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas une façon de gagner de l'argent, mais c'est d'aider les gens et de voyager de façon assez économique. Des fermes qui pratiquent le woofing, on en trouve à peu près partout dans le monde, en tout cas dans une soixantaine de pays.
C'est un bon deal. En France notamment ?
Absolument, oui. Plusieurs fermes participent à ce mouvement international qui est né dans les années 70. En voici donc trois exemples.
Et d'abord, on part avec vous donc dans l'Hérault.
Absolument, à Mont-Blanc, entre Béziers et Agde. Bienvenue au domaine des Amiel. Jordan et Émeric, ce sont deux frères et ils produisent sur 15 hectares des vins naturels. Ça, je sais que ça va vous plaire, Thierry.
C'est bien.
Et vous pouvez donc les aider à travailler les vignes, mais pas seulement pendant les vendanges. Ils ont aussi d'autres activités à mener dans leur potager. Par exemple, visitez leur site, hein, vous pourrez les contacter en direct, c'est encore ce qu'il y a de plus simple pour avoir toutes les infos et prendre contact.
Et le soir, on peut tester le vin, donc c'est ça. Hein
ben, j'imagine.
Près de Nantes aussi, on part, et là, on peut s'adonner donc aussi au woofing.
Et absolument, notamment chez Elsa et Steph. Alors là, c'est un couple qui est installé là-bas depuis 2009 et qui développe un projet vraiment complet qui vise à approcher au plus près l'autonomie aussi bien alimentaire qu'énergétique. Leur domaine s'appelle l'escampette. Moi, je dis que ça donne envie d'y aller. Et puis, donc, il y a une foule d'activités qui sont possibles hein, pour les woofers. Il y a du
travail est réalisé pour améliorer le compost, pour construire des réfrigérateurs sous terre, mais oui, et pour travailler aussi à l'entretien des toilettes sèches ou de toitures végétalisées. Quand je vous disais que c'était complet, bon, évidemment, ils pratiquent la permaculture. Hein, et comme ça, ben, ils ont 3,5 hectares à entretenir et à embellir.
Dernier voyage, vous nous amenez dans le Nord.
Cette fois, on va chez Bernard et Valérie. Leur projet, ils l'ont appelé Dream Garden, un beau petit paradis, un petit jardin de rêve, où ils vous invitent à les aider et à vous initier à la permaculture, alors l'entretien du potager ou du verger, l'apiculture, le soin des poules, et oui, parce qu'ils ont des animaux, vous ne manquerez vraiment pas d'opportunités. Leur domaine essaie, là encore, d'atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique. Ils ont même posé des panneaux photovoltaïques, c'est vous dire s'ils ont bon espoir, parce que bon, dans le Nord, quand même. Alors, enfin, en tout cas, à lire les commentaires postés sur leur site, en plus de tout le reste, les repas sont absolument délicieux.
Donc là, c'est près de Lille. Ça, c'est des belles idées. Qui y va ? Ce sont des jeunes qui y vont ?
Eh ben, non,
des écolos,
mais
bien
même,
sûr.
Même
des
vous
jeunes.
Et moi, on peut y aller. Hein. Non, c'est un peu tous les âges. À lire les témoignages sur les différents sites, il y a effectivement des jeunes, mais pas du tout, pas seulement. Il y a quand même, vous l'aurez remarqué, une espèce de volonté de retour un peu à la terre, au naturel, au plus près, aux produits qu'on va consommer directement après l'avoir cueilli, ramassé. Je pense que c'est plutôt un retour aux sources d'un paquet d'entre nous,
et
quel que soit nos âges, en fait. Et à l'échange, absolument.
Merci Sophie, on vous retrouve bien sûr lundi dès 9h dans le club de l'été. Ça sera la dernière semaine avant la rentrée.
C'est ça.
À lundi Sophie.
À lundi.
Merci.
Europe 1, il est 19h40. Gros plan à présent sur les métiers de l'été, ceux qui travaillent pour nous tout au long de la saison estivale, Thierry.
Et c'est dans quelques semaines que débutent les vendanges. Et pour les viticulteurs, c'est le moment crucial bien sûr de l'année. Reportage dans le Centre Var, signé Frédéric Michel.
Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un viticulteur varois. On est au cœur du massif des Morts. Face à moi, des vignes à perte de vue. Nous sommes sur le domaine du Château Saint-Pierre. Jean-Philippe Victor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans vos vignes ?
Oui, 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 tout à fait, comme tous les matins, de bonne heure.
Elle est magnifique, hein, la vigne. Elle est déjà bien haute, verte.
Oui, oui, cette année, elle est très belle. Dans l'ensemble, on a quand même une belle récolte qui se présente. Alors après, il va falloir l'amener jusqu'à la vendange, attention. C'est pas fini. On peut avoir la grêle, on peut avoir du sec, on peut encore avoir de la pluie, mais avec de la maladie qui vient par-dessus. Donc tant que le raisin n'est pas en cave, que le vin n'est pas fait, moi, je ne fais pas de pari de mélange. C'est fini.
Au domaine Saint-Pierre, la vigne est chouchoutée toute l'année, mais pour son propriétaire, la vendange est toujours un moment particulier. Avec les années, des liens se sont tissés. C'est ça aussi l'esprit du domaine.
Et c'est toujours la même famille qui vient et qu'on loge et qu'on nourrit. Et c'est la troisième génération de cette famille qui vient. Ça fait 50 ans qu'ils viennent ici au domaine. C'est des Italiens qui sont frontaliers. Ils habitent à Dolcea, quoi, un petit village au-dessus de Ventimille. Je dirais que c'est pratiquement de la famille. Moi, j'ai connu les parents, les enfants. Maintenant, c'est les petits-enfants qui viennent vendanger. Et c'est la fête au domaine. Voilà. On fait une partie de vendange à la machine à vendanger parce que, bon, économiquement, on est obligé de le faire. Mais toutes les cuvées haut de gamme et les vieilles vignes, on les fait à la main pour pouvoir faire venir les vendangeurs et perpétuer cette tradition.
Parlez-nous de votre domaine.
Alors ici, c'est le Château Saint-Pierre, on est aux Arcs, au cœur des Côtes de Provence. Moi, j'ai 60 hectares de vignes. Les trois quarts sont classés en AOP Côtes de Provence. J'ai plusieurs cuvées et j'ai les trois couleurs. Alors au niveau proportion, grosso modo, on fait 80% de rosé, 10% de blanc, 10% de rouge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 100% du vin que j'envoie hors région est du rosé. À l'export, les gens, ils nous connaissent que sur le rosé. Ici, on est au pied du Massif des Morts. Donc ici, moi, je suis sur des sols argilo-calcaires. Et après, j'ai des vignes également, justement, au pied des Morts qui sont très siliceux, très acides.
Justement, vous allez nous présenter vos vins. On va à la cave ?
D'accord. Voilà, là on rentre dans le caveau.
C'est plus frais. Hein.
Ah ben là il fait meilleur. Hein. Là actuellement l'été j'ai deux personnes en permanence au caveau pour accueillir, servir les clients. Vers 11h, entre 11h30 on a pas mal de monde. Et puis après en fin d'après-midi, voilà, quand les gens rentrent de la plage.
Du monde et du beau monde.
Oui, du beau
monde. Vous avez accueilli Barack Obama il y a pas longtemps.
Ouais, il y a 15 4x4 qui ont débarqué. La gendarmerie, ça a été un branle-bas de combat. Le domaine privatisé complètement. Même les conversations téléphoniques, a priori, les gendarmes m'ont dit que tout était brouillé pour pas qu'on puisse venir. J'ai été très surpris et très heureux de pouvoir le recevoir, mais un accueil très chaleureux, très naturel, et lui aussi quelqu'un de très abordable, voilà, abordable, lui ainsi que sa femme, voilà.
Donc, bonjour monsieur, donc je vais vous inviter à goûter les rosés. On va démarrer avec le tradition, qui est notre entrée de gamme. Donc là, on retrouve vraiment la typicité Saint-Pierre avec le côté agrumes et fleurs blanches typiques du terroir.
Fruité. Hein.
Fruité. On est aussi sur un vin qui est typique pour l'apéritif, léger, qui s'accommode avec toute la cuisine méditerranéenne et qui est parfait pour l'été au niveau des barbecues. Donc je préfère le faire dans ce sens, les rosés en premier, après passer sur les blancs et ensuite en terminant par les rouges qui sont sur de la Syrah, qui vont avoir des vins, qui vont être des vins puissants et épicés.
Voilà, là, ça, c'est le mari, le prieur. Alors donc je vous invite à prendre le verre de Marie en premier. Voilà, on fait tourner. On le sent très très floral, très très fin, très subtil. Voilà, donc en bouche, on retrouve les arômes qu'on a trouvés au niveau du nez. Et puis en plus, on a du gras, de la rondeur. Il reste très longtemps en bouche.
Et en plein été, cette fraîcheur, elle fait du bien.
Elle fait du bien et puis vous avez envie d'y revenir.
Allez, on vient vous voir à quel moment cet été?
Quand vous voulez, on est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, voilà.
Les Arcs, en Provence, Frédéric Michel, Europe 1.
Et rappelons, le vin, même bon, est à consommer avec modération.
Ça, c'est vrai.
Vous écoutez Europe 1 et votre dernier rendez-vous de votre grand journal du soir, le jour où un retour sur l'actu de la saison d'Iri.
Oui, et ce soir, on va revenir sur le jour où Strasbourg n'a pas dormi. Nous sommes le 11 décembre 2018, il est 19h45. Shérif Chekat entre dans le centre historique de Strasbourg, à deux pas du marché Noël. Il est armé d'un couteau et d'une arme à poing. L'attentat fera 5 morts et 11 blessés. Le terroriste arrive à prendre la fuite.
C'est terrible parce que c'est quand même un moment de paix, on se dit Noël, c'est quand même... Et puis là, on attaque un beau symbole, de la joie, du bonheur, et on brise ça d'un coup, c'est violent, quoi. Ça fait mal.
On ressasse, on revoit les images qui ont été relayées par les réseaux sociaux, on a des amis qui nous ont appelés, qui étaient en ville, donc ouais, difficile.
Bonsoir Cyril Brett.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et auteur de « Qu'est-ce que le terrorisme ?» aux éditions Vrin. Vous avez vécu à Strasbourg, vous connaissez parfaitement bien cette ville. Il faut d'abord, Cyril, bien sûr, revenir sur le lieu de l'attentat. Symbolique, bien sûr.
Hautement symbolique. Les différents meurtres et les différentes blessures qui ont été commises ont été réalisées au cœur même du marché de Noël de Strasbourg, sur ce qu'on appelle la Petite France, ouais. Quand on habite à Strasbourg. Et donc, c'est tout à la fois un haut lieu touristique, hein, au pied de la cathédrale de Strasbourg, un haut lieu religieux aussi.
À quelques jours de Noël.
Exactement, un haut lieu de l'identité alsacienne. Et puis, bien évidemment, un haut lieu de l'identité historique de l'Alsace et de la France. C'est tout ça qui a été frappé, ciblé, meurtri ce jour-là.
Et Strasbourg, c'est bien sûr le cœur de l'Europe aussi.
Évidemment.
La personnalité de Shérif Chekat, c'est un délinquant multirécidiviste, 29 ans. Il s'est radicalisé en prison. Il est issu des quartiers de Strasbourg.
Oui, c'est une personnalité qui est à mi-chemin entre le criminel de droit commun. Il a eu 27 condamnations entre la France, l'Allemagne, la Suisse. Et l'engagement islamiste, l'engagement politique, l'engagement violent. Ce soir-là, il crie « Allah est grand ». En assassinant les personnes qu'il croise sur son chemin. Et c'est toute l'ambiguïté de cette personnalité. À la fois un criminel, un acte de revanche sociale, un acte de frustration sociale et un acte revendiqué comme politique, comme religieux, quasiment comme géopolitique au moment où l'État islamique en Syrie, en Irak, est sur le reculoir et dans une période de faiblesse.
Est-ce qu'on peut dire que cette ville de Strasbourg est un fief salafiste ? Et comment vous l'expliquez ?
Dans l'archipel salafiste français, plusieurs villes ont leur une grande importance. Paris, ça nous le savons, mais Toulouse également, et Strasbourg tout particulièrement.
Et pourquoi Strasbourg ?
Strasbourg, c'est le lieu où de nombreuses communautés, plus ou moins fondamentalistes, se sont établies, bénéficiant d'ailleurs de la grande liberté, de la grande tolérance religieuse qui règne à Strasbourg, qui est une ville multiconfessionnelle, juive, chrétienne, catholique et protestante, évidemment. Ouais. Musulmane et qui prospère à l'ombre des mosquées, à l'ombre des librairies religieuses et aussi des clubs de sport qui ont un rôle très important dans la constitution de la sociabilité islamiste.
Cyril Brett, il faut qu'on revienne sur le moment. D'abord, au niveau international, Daesh connaissait une série de revers à l'époque.
Tout à fait. Depuis 2017, Daesh ne subit que des défaites sur ses théâtres de prédilection Syrie-Irak. Les forces conjuguées d'un côté des États-Unis, de la France évidemment, de la Russie, de la Turquie, lui infligent de très nombreuses pertes. L'organisation est en train de se désorganiser. Et donc elle porte la violence, elle porte le fer sur les théâtres européens. Et c'est la série de tous les attentats qui restent gravés dans la mémoire européenne, à Berlin, à Stockholm, évidemment à Paris et dans toutes les villes françaises.
Ça, c'est au niveau international. Au niveau national, ce 11 décembre, les manifestations des Gilets jaunes battent leur plein. La communauté nationale est divisée.
À ce moment-là de la vie politique française, la division est à son maximum depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La France est vraiment partagée en deux pour les Gilets jaunes, contre les Gilets jaunes. Et au milieu de cette division profonde, un acte supplémentaire de division qui est une division confessionnelle, religieuse, prétendument raciale et qui ajoute encore au chaos de la politique française de la fin de 2018.
Et des gilets jaunes qui vont continuer à manifester malgré l'émotion dans le pays après cet attentat de Strasbourg.
Je pense que l'image qu'on donne, c'est l'image des gilets jaunes, en avant, debout, fiers. Il n'y a pas de raison que, parce qu'il y a eu un événement tragique à Strasbourg, on doit tout arrêter, tout stopper.
Ah, moi, de toute façon, je suis là et quoi qu'il arrive, je resterai là.
Par contre, on est de toutes avec ces personnes qui ont perdu un membre de la famille.
Voilà, on compatit, mais ça n'empêche pas de continuer notre combat. Voilà ce que disent les gilets jaunes qu'on a entendus.
Oui, c'est l'effet habituel des attentats dans la vie politique nationale. Ils suspendent le rythme politique, mais en même temps, ils peuvent l'accélérer. Ça refait l'unité nationale, mais pour un temps seulement. Et ensuite, la vie politique ordinaire reprend ses droits. Et les gilets jaunes, à l'époque, certains d'entre eux, très minoritaires, ont même donné dans la théorie du complot. C'est-à-dire que cet attentat aurait été, si ce n'est organisé, du moins incité ou encore amplifié pour faire passer au second plan la mobilisation sociale, politique et les revendications des gilets jaunes.
Selon vous, Cyril Brett, ils auraient dû, les gilets jaunes, faire une trêve à ce moment-là ?
Ils ont fait une trêve assez largement. Ils ont manifesté leur sympathie. En revanche, évidemment, les accusations de complot de la part du gouvernement français étaient largement de trop et même inacceptables.
Alors, il y a des questions qui se posent encore aujourd'hui. Chérif Chekat devait être arrêté le matin même à 6h pour affaires criminelles. Il est absent. Vers 19h40, il franchit le pont du Corbeau vers le marché de Noël. Il passe le poste de surveillance alors qu'il est recherché. Il y a eu faille.
Oui, c'est la première interrogation qui s'est soulevée dans les minutes après la fusillade. Pourquoi a-t-il pas pu passer ce pif-là, ce point d'inspection et de filtrage ? Effectivement, les horaires de ce poste, qui était dans un dispositif de sécurité très rigoureux, s'arrêtent à 20h, au moment où le marché de Noël ferme le rideau, mais au moment où il y a encore évidemment beaucoup de personnes dans la rue des Orfèvres, etc. Et donc ça a été le premier point, la mise en accusation. Les pouvoirs publics, locaux ou nationaux, ont-ils faibli à ce moment-là ? Et comme toujours, il y a un effet d'apprentissage dans les attentats, c'est-à-dire que le dispositif a été adapté pour faire face à cette nouvelle menace. Depuis, les points d'inspection reste installé après la fermeture.
Ouais. La cavale va durer 2 jours, 700 membres des forces de l'ordre mobilisés avant d'être abattus. 2 jours pendant lesquels Strasbourg a retenu son souffle.
Contrairement peut-être à d'autres personnes qui arrivent à continuer à vivre, moi j'étais un petit peu pétrifiée chez moi. Je pense que c'est un soulagement, après on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver demain, s'il y a des représailles ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça me permet de rentrer un peu plus tranquillement chez moi ce soir. Même si on est un peu dans le soulagement de ce qui vient de se passer avec l'arrestation, enfin, en l'occurrence qu'il a été maîtrisé, je pense qu'il ne faut pas oublier les victimes qu'il y a eu et garder une pensée pour eux.
Cyril Brett, on se souvient des images, des chaînes infos en continu de cette traque pendant 2 jours. Il y avait une ambiance particulière en France.
Oui, une ambiance d'enfermement, une ambiance de siège. Le marché de Noël est suspendu à Strasbourg.
Exact.
Les passants ont été retenus dans les différentes institutions pour leur protection pendant la nuit. Et toute la France, et même toute l'Europe, il faut bien le dire, à travers cette capitale européenne qu'est Strasbourg, non seulement retient son souffle, mais en plus est en suspension dans l'attente du dénouement de la crise. La vie très profonde de la cité est toujours affectée par ces moments de suspension. On se souvient de New York en 2001, on se souvient de Paris en 2015, la notion d'enfermement, la notion de siège. Et après la mort de Chérif Chekat, après la revendication de l'État islamique sur cet attentat, la communauté nationale ressort dans la rue, commémore. Quelques jours après, les plus grands responsables politiques français et européens commémore la mémoire des victimes et la nation retrouve sa vie. Mais ces 2 jours-là restent comme une espèce de béance dans la vie collective de décembre 2018.
Le jour où Strasbourg n'a pas dormi, le 11 décembre 2018, à quelques jours de Noël. Avec vous, Cyril Brett, philosophe, auteur de « Qu'est-ce que le terrorisme ?» aux éditions Vrin. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans une poignée de secondes, le multiplex avec le retour de Lionel Rousseau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Cédric Lastenet et Capucine Patouillet qui m'ont aidé à préparer ces 2 heures d'infos. Merci à Kevin Ousty à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À demain, Géraldine.
Avec plaisir, Cyril. À demain.
Belle soirée à tous sur Europe 1.